Les médias sont contrôlés pour une partie, soit par la pub, soit par les mêmes groupes. Donc ça monte aussi des fois un problème d'indépendance.
Radio Courtoisie.
Indépendance totale.
7h, 10h sur Radio Courtoisie. Ligne droite avec Alexandre de Galzin.
Bonjour à tous, chers auditeurs, bonjour, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. C'est un plaisir de vous recevoir en ce dernier jour d'avril. Je profite pour dire que demain, étant donné que c'est un jour férié, eh bien nous ne diffuserons pas Ligne Droite ici en direct sur Radio Courtoisie. Donc c'est le dernier jour de la semaine, en plus d'être celui le dernier d'avril. Aujourd'hui, matinale plutôt accompagnée de Maëlys Clausel. Bonjour Maëlys.
Bonjour Alexandre et bonjour à tous les auditeurs.
Et puis Arnaud à la technique, bonjour Arnaud.
Bonjour Alexandre, bonjour Maëlys et bonjour à vous chers auditeurs.
Et bien aujourd'hui nous allons parler de géopolitique, on va pas s'en cacher, on va commencer d'abord par la question libanaise. La question libanaise qu'on traitera avec Yann Bali, président de Chrétiens des Solidarités, qui est en direct du Liban, présent sur place, sur le terrain, comme vous pourrez le voir si vous nous regardez sur X ou sur YouTube. Ensuite, eh bien, à 7h25, nous recevrons le général Trinquant. Dominique Trinquant, que vous connaissez peut-être, chers auditeurs, nous parlerons de la Russie, de l'Iran, des États-Unis, qui menace vraiment la France et l'Europe. C'est la question que nous lui poserons, sachant que nous serons rejoints à 7h50 par Geoffroy Antoine, reporter au JDD, qui se joindra à cette conversation. À 8h20, nous resterons sur la géopolitique, mais on se rapprochera un petit peu, étant donné qu'on partira en Angleterre, où nous rejoindrons Jeremy Stubbs, qui est directeur adjoint de la rédaction de Causeur, et qui nous parlera de Keir Starmer. Enfin, eh bien, à 9h05, l'analyse de Jean Messia, comme chaque jeudi. Merci, chers auditeurs, c'est un plaisir de débuter cette matinée avec vous, et avec le bulletin d'actualité de Maëlys Clausel.
Alors que le rapport de Charles Alencle est fraîchement publié, Éric Ciotti enclenche la cinquième et annonce vouloir révéler la vérité aux Français sur le coût réel de l'immigration. Grâce à une commission d'enquête annoncée à l'Assemblée, il affirme vouloir enfin obtenir les vrais chiffres. Là où le flou et les angles morts dominent depuis des années, surtout parce que le système le veut bien. Une initiative qui intervient dans un contexte où la majeure partie de l'opinion publique exprime un rejet croissant de l'immigration. Derrière les débats techniques, c'est une exaspération profonde qui s'installe. Pour beaucoup de Français, la question n'est plus marginale mais centrale. Le groupe Union des droites pour la République n'a plus qu'à attendre la prochaine session parlementaire pour agir. Écoutons Éric Ciotti nous donner ses raisons d'établir ce rapport.
On peut se demander qui sont les maboules quand on voit ceux qui nous dirigent et qui ont conduit le pays dans cet état. On nous dit depuis des années, il y a un problème pour les travailleurs, on a besoin d'immigration. Mais regardez, depuis l'élection de M. Macron en 2017, il y a eu près de 4 millions d'étrangers qui sont arrivés légalement dans notre pays. Est-ce qu'ils sont venus travailler? Bien sûr que non. 92% de ceux qui arrivent en France ne viennent pas pour travailler. Et c'est ce coût gigantesque à plusieurs dizaines de milliards d'euros qui aujourd'hui pèse sur nos finances publiques. D'ailleurs, je vous annonce ce matin, notre groupe, comme je l'avais fait sur l'audiovisuel public, va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit qu'on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler. Et ils représentent aujourd'hui une charge lourde, trop lourde, pour notre pays. Et M. Macron est le premier responsable de cette situation, comme ceux qui le gouvernent en son nom aujourd'hui.
C'était Éric Ciotti, président de l'UDR et maire de Nice.
Et puis vous nous parlez d'un gauchiste, un chouïa plus honnête que les autres.
Oui, malgré son gauchisme, François Ruffin crée tout de même la surprise en se déclarant hostile à l'immigration pour le travail, dénonçant un recours à la main-d'œuvre étrangère qui tirerait les salaires des Français vers le bas. Une prise de position qui tranche nettement avec la ligne traditionnelle de la gauche. Résultat, un tollé immédiat dans son camp, de Nathalie Arthaud à Andy Kerbrat. Les accusations de dérive prétendument xénophobe fusent, révélant les fractures profondes d'une gauche de plus en plus divisée. En pleine préparation pour 2027, Ruffin tente ainsi de capter une inquiétude grandissante dans le pays, au risque de s'isoler politiquement dans son propre camp.
Et puis une mauvaise nouvelle supplémentaire pour un entrepreneur français.
Bah oui, malheureusement Alexandre, Philippe Bayardran, figure du cannelé bordelais, se retrouve contraint de demander le redressement judiciaire de sa société. En cause, une chute du chiffre d'affaires, explosion des charges et concurrence accrue malgré une marque emblématique. Après une vente compromise, des difficultés financières persistantes, l'artisan entend néanmoins sauver l'essentiel, les emplois et le nom Bayardran. Un nouveau signal des difficultés qui frappent les entreprises françaises, y compris les plus ancrés dans le patrimoine local de nos régions.
Et puis un membre emblématique de l'OPEP claque la porte.
Tout à fait, les Émirats Arabes Unis annoncent leur retrait de l'OPEP dès le 1er mai. Cette alliance de pays producteurs créée pour coordonner les niveaux de production et peser sur les prix du pétrole voit ainsi l'un de ses membres historiques faire sécession au nom de son intérêt national. Ce départ fragilise un peu plus l'organisation et risque d'accentuer les déséquilibres du marché pétrolier dans un contexte déjà marqué par les tensions géopolitiques et la guerre au Moyen-Orient. Pour la France, dépendante des importations d'hydrocarbures, les conséquences pourraient être directes. Carburant plus cher, inflation persistante et pression accrue sur le pouvoir d'achat comme sur les entreprises. Autrement dit, les Français n'ont pas fini de se serrer la ceinture et de payer abondamment.
Et puis pour le sport, vous avez un mot de tennis.
Effectivement, le joueur Dak Draper déclare forfait pour Roland-Garros en raison d'une blessure au genou. Le Britannique, actuel 28e mondial, poursuit sa convalescence après son abandon à l'Open de Barcelone face à Thomas Martin Echeverry.
Entendu, et pour ce qui est de la météo ?
Eh bien aujourd'hui, le temps est orageux dans le sud-ouest et le long de la façade atlantique. Vous serez sous la grisaille également dans le PACA et en Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'un grand ciel bleu est attendu en Île-de-France et en région nord et dans le Grand Est. Et les températures ce matin vont de 16 degrés à Lille jusqu'à 22 à Ajaccio. Et nous célébrons ce 30 avril Saint-Pie-V, Saint-Robert-de-Molème, Saint-Adjuteur et la bienheureuse Rosemonde.
Merci beaucoup, Baylis.
Ligne droite.
Et vous restez un petit peu pour reprendre le flambeau du décryptage de Magda.
Tout à fait, Alexandre. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, comme chaque 30 avril, la Légion étrangère commémore le combat de Cameron. Une victorieuse qui remonte à 1863 au Mexique et qui reste l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire militaire française. Ce jour-là, 62 légionnaires commandés par le capitaine d'Anjou sont encerclés par 2 milliers de soldats américains. Ils tiennent pendant des heures, refusent de se rendre pour permettre à un convoi français d'acheminer argent, matériel et munitions. Ils poursuivent le combat jusqu'au bout. Il reste moins de 10 survivants, dont 3 encore en état de se battre, qui lancent malgré tout une dernière charge à la baïonnette. Impressionné, l'officier américain accepte de les épargner. Et pendant ce temps, la mission réussit. Le convoi passe. C'est une victoire. Pour la Légion étrangère, Cameron résume tout. Tenir, obéir, aller jusqu'au bout de la mission, quoi qu'il en coûte. Et au-delà de la victoire, c'est aussi pour cela que cette bataille est commémorée chaque année, partout où se trouvent des légionnaires en France, dans les communes, dans les régiments et surtout à Aubagne, à la maison mère de la Légion. Cette année marque le 163e anniversaire de Cameron et comme chaque année, une cérémonie importante est prévue. Cette année, avec la présence du prince Albert de Monaco, à Aubagne, mais aussi d'anciens responsables militaires, dont le général Thierry Burcard, qui aura l'honneur de porter la main en bois du capitaine d'Anjou. Cet objet est au cœur de la tradition de Cameron. C'est une relique, un symbole concret de cet engagement poussé jusqu'au sacrifice. Ce n'est pas seulement une cérémonie militaire, c'est un moment de mémoire. La Légion entretient cette mémoire de manière très active parce qu'elle considère que son histoire ne relève pas du passé, mais qu'elle structure encore son identité aujourd'hui. Cameron met en avant des valeurs importantes comme le sens du devoir, l'engagement, la fidélité à une mission, la capacité à tenir même dans une situation qui paraît perdue. Ce sont des notions pourtant simples et basiques mais qui ont tendance à disparaître dans notre société. Aujourd'hui, on parle beaucoup de droits, beaucoup moins de devoirs, on valorise l'individu et beaucoup moins l'engagement collectif. Et c'est là que la mémoire de Cameron rappelle une exigence. Elle rappelle qu'il existe encore des cadres où l'on attend de l'individu qu'il s'efface devant une mission plus grande que lui. La Légion étrangère est d'ailleurs un cas particulier. Elle est composée, comme son nom l'indique, en grande partie d'étrangers qui choisissent de servir la France, parfois jusqu'au sacrifice. Français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Cette réalité est souvent évoquée, mais rarement interrogée. Et pourtant, comment des hommes venus d'ailleurs peuvent-ils incarner aussi fortement un engagement au service de notre nation, quand dans le même temps, à l'intérieur du pays, ce même service est fragilisé, critiqué, voire dévalorisé? Cameron, eh bien effectivement, c'est aussi cela. Ce n'est pas seulement une bataille, c'est aussi le rappel de ce que signifie servir la France, de ce que signifie s'engager pour la France et de ce que cela implique réellement. Et dans une époque où ces notions sont parfois relativisées, contestées ou diluées, cette commémoration ne relève pas uniquement du cérémonial, elle est comme une piqûre de rappel, elle remet en avant ce modèle, un modèle exigeant qui ne correspond pas toujours à l'air du temps, mais qui continue d'exister et plus que jamais nécessaire. Cameron est une victoire, la mission a été réussie parce que le convoi est passé, parce que l'objectif a été tenu jusqu'au bout malgré tout. Et c'est précisément ce que cette bataille rappelle encore aujourd'hui, que l'engagement, la discipline et la fidélité à une mission ne sont pas que des mots creux, ni des concepts théoriques, ce sont des exigences concrètes qui finissent par produire des résultats. 663 ans après, Cameron reste un repère, une victoire importante, ce n'est pas seulement par tradition, c'est parce que c'est lorsque ces valeurs sont réellement incarnées, elles fonctionnent, elles gagnent. Derrière l'apparente défaite, la persévérance a permis une victoire.
Merci beaucoup, Maïlys Clauzel.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous avons le plaisir de recevoir Yann Bali. Yann Bali, bonjour, vous êtes en direct du Liban. Liban, vous êtes sur le terrain et vous êtes, je rappelle, président de Chrétienté Solidarité. Alors Yann Bali, déjà, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu où vous êtes ?
Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs. Est-ce que vous m'entendez ?
Parfaitement.
Bon, alors c'est parfait. Écoutez, je suis actuellement à l'extrême sud de Beyrouth, dans la montagne du Chouf, pour ceux qui connaissent, donc c'est-à-dire entre Beyrouth et ce qu'on appelle le sud Liban. Voilà.
Alors, justement, vous êtes présent directement sur le terrain. On entend beaucoup parler ces derniers temps après évidemment les frappes israéliennes, d'un conflit qui finalement ne s'arrête pas tout à fait. On compte encore 8 morts dans de récentes frappes. De manière générale, est-ce qu'on sent qu'il y a un vrai cessez-le-feu qui est respecté ? Est-ce que, de manière générale, les Libanais se sentent en cessez-le-feu ? Ou alors, est-ce qu'ils se sentent en guerre et dans une sorte de trêve temporaire ?
Non, le cessez-le-feu en pratique ne concerne que Beyrouth. Que Beyrouth et le nord du Liban, il n'y a plus de frappe sur Beyrouth depuis que ce cessez-le-feu a été décrété. En revanche, dans le sud où j'étais hier, là, la guerre continue et elle s'intensifie. Il y a eu une nuit très difficile. Je parle des villages chrétiens où je me suis rendu. Une nuit très difficile entre dimanche et lundi et la nuit précédente, c'est-à-dire la nuit entre mardi et mercredi, c'est-à-dire la nuit qui a précédé mon arrivée dans le sud, a été également très dure. J'ai rencontré hier un certain nombre de personnes, des établissements scolaires qui sont fermés, des jeunes qui doivent suivre leur cours en ligne. Ils m'ont dit tout ce qu'ils vivaient et pendant qu'ils témoignaient, on entendait le bruit des bombardements à quelques kilomètres derrière nous. Donc, oui, il n'y a pas de trêve dans le sud. La guerre continue dans le sud.
Et alors, justement, la guerre continue dans le sud, mais sur à peu près quel théâtre d'opération ? Parce qu'évidemment, on sait que Israël, voilà, se situe autour du fleuve Litani actuellement, sans qu'on sache vraiment quels sont ses objectifs. Actuellement, est-ce qu'il y a encore des civils qui se trouvent dans le sud, ou alors est-ce que tout le monde a été évacué justement vers des zones qui ne sont plus des zones potentiellement à risque ?
Alors, au sud du Litani, la plupart des villages ont été évacués. Les seuls villages où la population reste dans une quantité qui est importante, ce sont les villages chrétiens. Parce que les villages chrétiens ont compris que s'ils partaient, ils ne reviendraient plus. C'est-à-dire que leur village serait investi par des combattants du Hezbollah et par voie de conséquence, les Israéliens frapperaient leur village. Donc, il y a le sud est largement vidé, hormis ces villages chrétiens qui résistent. Évidemment, bon, il y a des villages qui sont non chrétiens où il reste des populations, mais le fait majeur, ce sont ces villages chrétiens qui sont absolument, dont la population est absolument admirable, Je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. J'ai des témoignages exceptionnels que j'ai recueillis hier. Voilà, donc le Sud n'est pas totalement vide. Et quant au théâtre des opérations, il va de la mer, disons, au Mont Hermon. Mmh. Hier, j'étais du côté de Marjayoun, donc qui est plutôt à l'est du côté du Mont Hermon. Et là, c'est Riyam, c'est Binj Bay, et c'est là où ça frappe énormément ces dernières heures. Voilà. Mais également de l'autre côté, à Nakoura, du côté de la mer.
Alors, il y a une question qui se pose, bien sûr, c'est qu'on sait que deux militaires français, deux membres de la FINUL, sont récemment morts là-bas au Liban. Justement, est-ce que la FINUL n'est pas censée faire en sorte qu'il n'y ait, quelque part, que ce conflit soit au moins en pause et que, d'une certaine façon, empêcher aussi les troupes israéliennes comme celles du Hezbollah de mener des frappes de chaque côté? Quel est le rôle exactement de la FINUL sur le terrain?
À la FINUL, son cahier des charges n'est pas d'employer des moyens de coercition, ou alors uniquement en position défensive. Donc vous comprenez bien que dans un conflit d'une aussi forte intensité qui oppose Israël et le Hezbollah, la FINUL est complètement démunie. Cela dit, hein, ça n'enlève rien au courage des soldats de la FINUL qui essayent de faire leur travail, mais qui font un travail d'accompagnement humanitaire, un travail d'intermédiaire. Voilà, quand on se rend dans les villages du sud Liban, quand les associations humanitaires comme l'Œuvre d'Orient, comme nos amis de Nawraj se rendent dans le sud, bon, c'est la FINUL qui prévient l'armée israélienne et sans doute le Hezbollah qu'il y a un convoi humanitaire et que on ne tape pas dessus, quoi. Voilà. Donc la FINUL est là, c'est un rôle figuratif, mais c'est dans son cahier des charges.
Mmh. Maintenant, je voudrais revenir évidemment sur les villages chrétiens que vous avez pu voir et que justement tous ces chrétiens libanais que vous avez pu rencontrer. Une question qui se pose évidemment, c'est que si ce conflit a redémarré au Liban précisément, c'est à la suite de tirs de roquettes du Hezbollah qui ont suivi eux-mêmes l'attaque d'Israël sur l'Iran. Théoriquement, si on suit la logique des choses, Israël ne devrait pas frapper les villages chrétiens pour une raison simple, c'est que évidemment c'est le Hezbollah qui est en cause, Hezbollah chiite. Est-ce que il y a quand même des villages chrétiens qui sont frappés volontairement par Israël? Et si oui, comment ça se justifie d'une certaine façon?
Non, il n'y a pas de village, les témoignages sont clairs, il n'y a pas de village chrétien qui est frappé volontairement par Israël, excusez-moi. Il y a deux cas de figure, il y a des villages qui ont laissé s'installer des combattants du Hezbollah, et dans ce cas-là, Israël frappe les combattants du Hezbollah et par conséquence frappe des villages chrétiens. Et il y a aussi, comme ça a été le cas dramatique du curé de Cléa, oui. Le père Rai, là c'est un éclat de missile qui a tué le prêtre de ce village. Mais voilà, les Israéliens recommandent aux chrétiens de quitter la zone pour ne pas créer de victimes dans la population chrétienne. Mais bon, ce que les populations chrétiennes ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas envie de retrouver leur village comme un champ de bataille, quoi. Le fait qu'ils restent, ça permet d'éviter, avec la police libanaise qui reste et la gendarmerie libanaise, d'éviter que des combattants du Hezbollah ne s'installent et que leur village soit frappé par les tirs israéliens.
Mais on compte tout de même, Yann Bali, mais on compte tout de même plus de 2600 morts donc depuis la riposte israélienne, et parmi eux donc un certain nombre de chrétiens, et puis même on compte, je crois, 1,5 million de déplacés dans le pays, donc ça fait quasiment un tiers de la population, parmi eux aussi de très nombreux chrétiens. Comment ça se fait que justement les chrétiens eux-mêmes soient dans cette situation difficile, alors qu'encore une fois, effectivement, théoriquement, ils sont censés être en dehors de ce conflit qui concernerait que le Hezbollah et Israël?
Et voilà, c'est la conséquence de l'imbrication des communautés au Liban. Hein. Vous avez des chrétiens qui habitent aux limites de la banlieue sud de Beyrouth. Vous avez des chrétiens qui peuvent travailler dans des zones qui sont impactées par la guerre. Et dans le sud Liban, c'est un enchevêtrement de villages chrétiens au milieu de secteurs qui sont à majorité chiites et donc plus susceptibles d'accueillir des combattants du Hezbollah. Vous avez, je serai dans quelques heures dans une enclave similaire au nord de la Beka, dans les villages de Ras Baalbek et de Ka, à la frontière syrienne. C'est une enclave chrétienne au milieu d'un océan chiite, si on peut dire. Mmh. Et tout autour d'eux, ça frappe. Leurs villages, les villages de Ras Baalbek et de Ka, ne sont pas frappés. Mais évidemment, il peut y avoir, lors d'un déplacement, lorsqu'on va à Beyrouth, on se trouve dans la plaine de la Beka, du côté de Baalbek, et sur des villages qui peuvent être bombardés. Donc là, il peut y avoir des victimes collatérales. Les chrétiens ne sont pas, ça c'est la réalité, ne sont pas visés directement. Voilà, il y a des victimes chrétiennes, ça c'est certain, mais elles ne sont pas visées directement en tant que chrétiens.
D'accord. Et alors, justement, sur un aspect peutêtre plus humanitaire, quelque part, quelle est la situation pour un village qui serait au milieu d'autres villages, un village chrétien qui serait au milieu d'autres villages chiites, du Hezbollah, complètement rasés, justement. Enfin, comment est-ce qu'on achemine la nourriture? Est-ce qu'il y a toujours une forme d'accès à Internet? Enfin, comment est-ce qu'il y a toujours des... Vous parliez des élèves, comment les élèves font pour suivre encore leurs cours? Est-ce que finalement on essaye de retrouver une vie normale d'une certaine façon, ou alors est-ce qu'on se sent vraiment en état de guerre?
Non, c'est vraiment l'état de guerre. C'est vraiment l'état de guerre. Des villages sont isolés, je pense à Armesh, à Ain Ebel et à Debel, qui sont ravitaillés épisodiquement, mais là ce sont des convois lourds sous protection de l'armée, de l'armée libanaise et de la FINUL. Donc vous comprendrez que c'est pas très aisé de les ravitailler. Le problème, c'est ce sont les médicaments et ce sont les soins. Oui. La nourriture, ça arrive à se régler, mais ce sont les médicaments et les soins. Le gros problème, c'est que les gens ne peuvent plus travailler, puisque soit ils sont agriculteurs. On évite de sortir parce que ça tire dans tous les sens. Soit ils ont des emplois dans des villes un peu plus éloignées, mais on ne peut pas circuler. Donc il y a un gros problème de revenus dans ces villages chrétiens qui sont restés. Il y a un problème effectivement d'éducation, puisque les cours ne peuvent pas se dérouler normalement, les écoles sont fermées. Les enseignants, les établissements font un travail remarquable parce qu'il y a des cours en ligne, et puis il y a le sentiment de ne plus, enfin voilà, c'est un état de guerre, on est isolé, on ne peut pas voir ses amis, c'est l'église reste un lieu important, puisqu'on se retrouve à l'église le dimanche, c'est là où on peut encore avoir une vie sociale, mais sinon, voilà, ils vivent en état de siège, c'est très difficile. J'ai écouté des témoignages de jeunes lycéens libanais de Cléa hier, c'était très, 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 très émouvant, très prenant, ils sont d'un courage absolument remarquable. Les chrétiens du Sud font l'admiration de tous les chrétiens du Liban, parce que ils sont symboles de ce peuple chrétien du Liban qui veut rester sur sa terre, envers et contre tout, malgré les dangers, et ils sont le gage de la résurrection qui va venir du Liban.
Yann Belli, justement, à ce sujet précis, il nous reste une minute. Quel est l'espoir aujourd'hui des Libanais? C'est-à-dire que, est-ce que dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir rester et tenir le coup? Ou alors, est-ce qu'ils se disent qu'un jour, vraiment, le Liban pourra se reconstruire? Et sous quelles conditions? En une minute, désolé.
Ce qu'on entend, c'est qu'on veut bien subir encore des sacrifices, mais que ce soit la dernière fois et qu'on en finisse. Mmh. Que l'État libanais reprenne sa souveraineté, que l'armée libanaise retrouve sa force et sa souveraineté, qu'il n'y ait plus d'État dans l'État et que les conflits étrangers au Liban ne viennent plus sur notre sol. Voilà. Ils sont prêts à souffrir encore quelques temps, mais que ce soit pour la dernière fois et que le Liban retrouve la paix et la souveraineté.
Eh bien écoutez, on va finir Yann Belli sur ce beau message d'espoir, en espérant qu'effectivement un jour les Libanais se réveillent de ce long cauchemar dans lequel ils semblent plonger. Merci d'avoir été avec nous sur le terrain, et peut-être qu'on vous retrouvera à votre retour, si cela est possible. Merci avec beaucoup plaisir. Et à bientôt sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, il est 7h24. À 7h50, nous serons rejoints par Geoffroy Antoine qui viendra sur le plateau. Puis à 8h20, nous retrouverons Jérémy Stubbs qui nous parlera de l'Angleterre. Mais tout de suite, c'est le général Trinquant que nous recevons ici. Iran, Russie, États-Unis qui menacent la France et l'Europe.
Ligne Droite. Le grand entretien.
Et pour ce grand entretien, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau le général Dominique Trinquant. Général Trinquant, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour et merci de me recevoir.
Alors aujourd'hui, évidemment, ce qu'on voulait aborder avec vous, c'est les quelque part les grands mouvements, les grands conflits qui ont lieu en cours. Simplement, on va peut-être commencer justement par ce terrain que vous avez pu entendre. Vous avez pu entendre Yann Bali il y a un instant. Vous avez écrit un article sur la question de la Finule, donc quelque part vous pouvez encore mieux répondre à la question que je lui ai posée. Deux soldats tricolores qui ont été tués effectivement, alors visiblement dans une opération liée au Hezbollah et pas donc à une frappe israélienne directement liée au Hezbollah. Là sur ce point, on se demande, dans un contexte où effectivement les frappes israéliennes sur le Liban sont de plus en plus fréquentes, dans un moment où effectivement le désarmement du Hezbollah n'a pas fonctionné, en réalité, à quoi sert-il réellement d'avoir une force stationnaire ici au Liban ?
Oui, merci beaucoup. Alors j'ai commandé un bataillon au Liban, hein, ce qui fait que je connais bien la région et j'ai une pensée émue pour mes amis libanais de Rmesh, Ma, etc., qui sont des villages chrétiens qui tiennent effectivement. Faut revenir un tout petit peu en arrière. Cette force de l'ONU est présente depuis 1978. Lorsque j'y étais, le sud était totalement occupé par Israël, jusqu'au Litanie. Le nord était occupé par la Syrie. C'était entre 82 et 2000. En 2000, les Israéliens sont brutalement partis. À l'époque, il n'y avait pas de Hezbollah. C'était essentiellement contre les Palestiniens qu'il y avait un sujet. Ce sujet a changé. C'est ce que j'explique dans l'article de La Croix que vous avez, dont vous avez parlé. Ce sujet a changé avec l'arrivée du Hezbollah, appuyé par Téhéran, et qui, en fait, a voulu s'intituler le Parti de la Résistance, donc combattre contre Israël. Et là, il y a des allers-retours qui ont commencé. 2004, 2006. 2006, il y a eu une opération israélienne importante. L'ONU a mis en place un renforcement, 12 000 hommes. Italien, espagnol, français, au sein de la Finule. Et puis, il y a eu un accord, la résolution 1701, qui demandait le désarmement du Hezbollah, avec l'accord, bien sûr, du gouvernement du Liban, mais rien ne s'est passé. Pendant 20 ans, quasiment rien ne s'est passé. Et là, tout a recommencé. Alors d'abord, après le massacre du 7 octobre, le Hezbollah a pris fait et cause pour le Hamas et a tiré sur Israël, donc il y a eu action. Et là, avec l'opération en Iran, le Hezbollah retire sur Israël, alors qu'Israël pensait l'avoir éliminé avec la fameuse attaque des beepers qui avait décapité le Hezbollah. Et donc, on se trouve dans cette situation aujourd'hui. Israël veut complètement nettoyer du Hezbollah le sud du Liban. D'où les attaques qui ont lieu aujourd'hui, et d'où l'impression qu'on dit à un cessez-le-feu, puisqu'il y a une discussion à Washington. Au passage, que j'applaudis. Le Liban et Israël ne se parlaient pas depuis 42 ans. Donc la première fois, ils se réunissent. Donc c'est une bonne chose. Mais sauf que le cessez-le-feu, Israël l'a compris sur Beyrouth ou au nord du Litanie, mais pas au sud du Litanie, parce qu'ils considèrent qu'ils doivent nettoyer le sud. Et donc cette situation va durer, parce que M. Netanyahou a une stratégie. Il veut éliminer la menace au nord d'Israël. Donc ça va durer tant qu'il n'aura pas réduit. Alors, la Finule là-dedans, la Finule, elle est là pour aider l'armée libanaise. Et elle aide l'armée libanaise. Lorsqu'ils découvrent des caches, ils vont faire sauter les explosifs. Ils aident l'armée libanaise à trouver, mais l'armée libanaise est un peu gangrénée par des chiites qui sont à l'intérieur de l'armée libanaise et qui sont en fait un pied chez le Hezbollah, un pied dans l'armée libanaise. Maintenant, le peuple libanais, lui, a compris que le Hezbollah se battait pour Téhéran, pas pour Beyrouth. Et donc, il faut l'aider. Et la Finule, vous le savez, termine son mandat le 31 décembre. Tout simplement parce que les Américains refusent de payer. Et que les Américains payent 25% de la Finule. Donc, le 31 décembre, La Finul termine son mandat, partira en 2027, et la question c'est, que fait-on après ? Parce que le Hezbollah ne sera pas encore complètement désarmé, parce qu'il faut renforcer le gouvernement libanais, il faut renforcer l'armée libanaise, et là, il y a des travaux qui sont en cours, je suis en contact avec New York, je sais qu'on travaille sur le sujet, est-ce que ça va être une coalition, etc. Quel va être le rôle de la France ? Parce que la France a un rôle très particulier au Liban. D'abord parce qu'elle l'a créé
en 1920. C'est-à-dire qu'on a toujours évidemment cette relation historique privilégiée. D'un autre côté, effectivement, on se demande dans ce contexte, effectivement, comment est-ce que quel rôle on peut avoir, si ce n'est un rôle d'ingérence typiquement dans ce genre d'affaires, parce qu'effectivement, comme vous le disiez. L'État libanais a donné son accord pour le désarmement du Hezbollah. Le Hezbollah lui-même l'a refusé. Désormais, théoriquement, c'est une affaire qui se déroule entre l'État libanais, l'armée libanaise et ce Hezbollah. D'un autre côté, évidemment, Israël qui arrive au sud, mais qui n'est pas non plus en renfort de l'État libanais. Finalement, à moins de s'ingérer directement dans les affaires internes libanaises, on voit mal comment justement la Finul et la France, a fortiori, peut résoudre ce problème.
Bah, évidemment que la Finul et la France ne peuvent pas s'ingérer. Mmh. C'est pas possible. On va pas faire le travail à la place des Libanais. Maintenant, je disais que Israël et le Liban se parlent. Ce serait une bonne chose qu'ils se parlent sur comment réduire le Hezbollah. Le problème, c'est que le gouvernement libanais, d'une certaine façon, méprise tellement l'ONU et la Finul qu'il s'en fiche. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, des soldats indonésiens qui ont été tués par des frappes israéliennes. Mmh. De l'autre côté, il méprise l'ONU et il méprise les Libanais.
Donc, vous parlez du gouvernement d'Israël, pardon. Vous avez dit le gouvernement libanais.
Pardon, oui, le gouvernement d'Israël, oui, bien sûr, oui. Évidemment. Le gouvernement israélien méprise le gouvernement libanais, méprise l'ONU, et donc croit pouvoir se débrouiller tout seul. Mm. Alors, il a une puissance considérable, militaire, ça ne fait aucun doute, hein, il est très très fort. Mais, au bout du compte, c'est pour aider le gouvernement libanais. Mm. Et c'est là que le dialogue est important. Et c'est compliqué parce que je rappelle que le Liban est toujours en guerre contre Israël aujourd'hui.
J'allais le dire justement d'une certaine façon, Général Trinquant, il y a quelque chose qui est important dans cette affaire, c'est que bien sûr on se pose la question de l'intention réelle d'Israël dans cette opération, comme on a pu se la poser d'ailleurs au niveau de Gaza, parce que évidemment il y a l'objectif affiché et il y a des actions concrètes et d'autres paroles qui sont un petit peu, disons, moins officielles. On pense évidemment à certains discours irrédentistes de l'extrême droite israélienne, de Smotrich ou de Ben-Gvir, qui ont toujours cherché à, vouloir étendre Israël au sud du Liban notamment. Ne parlons pas de la question de Gaza. Et à côté de ça, évidemment, se pose toujours la question de la proportion de la riposte, comme à Gaza, où effectivement, le massacre du 7 octobre, je pense que c'est un sujet qu'on a largement traité, effectivement, et il y a eu une riposte qui était sans doute de la légitime défense à l'origine, mais qui a, disons, peut-être débordé, en tout cas, c'est ce que disent certains. Là, sur cette question concrète du Liban, c'est encore plus visible, parce que je crois que le nombre de roquettes lancées par Israël, le Hezbollah au début, n'a fait aucun mort, et je crois, un nombre extrêmement faible de blessés. Là, on en est à 1,5 million de déplacés en retour au Liban.
Oui, mais Israël, il faut faire attention quand on parle d'Israël, la politique de M. Netanyahou, c'est clair, c'est la défense d'Israël, et la défense d'Israël se passe par l'utilisation maximale de la force partout où il y a des opposants. Alors, on a parlé de Gaza, bien sûr, la Cisjordanie, on n'en parle pas assez, mais il se passe des choses en Cisjordanie, le Sud-Liban, et bien sûr l'Iran, et donc c'est l'utilisation maximale de la force. Et il faut voir que du côté des Israéliens, il y a aussi la population, même si elle ne soutient pas complètement Netanyahou, il y en a assez aussi.
Oui.
Vous savez, moi j'ai des contacts bien sûr là-bas, à Jérusalem, et ils me disaient, après le 7 octobre, difficile de parler de Palestine.
Oui.
Or, on le sait bien, pour le gouvernement de M. Netanyahou, il ne faut pas de Palestine.
Mmh.
Et donc, on tourne un peu en rond, et c'est l'utilisation de la force maximale. Et d'une certaine façon, je pense que pour M. Netanyahou, la sécurité d'Israël, c'est la continuation de la guerre permanente contre tous ses ennemis autour.
Oui.
Donc, Voilà, on est dans un espèce de tunnel. Je rappelle qu'il y aura des élections au mois d'octobre en Israël. On verra ce que ça donnera à ce moment-là.
Mais il n'est pas exclu que Benjamin Netanyahou, malgré toutes les critiques qui sont formulées contre lui, soit effectivement réélu.
En particulier à cause de la guerre en Iran, parce que là, il a un soutien massif de la population israélienne, et à juste titre, tout vient de la tête de la pieuvre. De Téhéran. Et donc, tant qu'on n'aura pas coupé la tête de la pieuvre à Téhéran, on aura les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, des mouvements contre lesquels Israël doit lutter. Et c'est pour ça que sa stratégie, contrairement à celle de M. Trump, elle est claire. On peut ne pas la partager, mais elle est claire. Il faut changer le gouvernement à Téhéran, parce que sans ça, on aura toujours des menaces contre Israël.
Bah alors justement, ce que j'aimerais bien, c'est un peu déplacer cette conversation sur également les implications forcément qu'on a, nous, en France, et aussi on pourrait élargir ça à l'Europe d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il faut dire que, évidemment, la France et l'Europe ont toujours eu des relations assez privilégiées avec Israël, que Israël a été longtemps considéré comme la seule puissance occidentale de la région d'une certaine façon, quoi qu'on mette derrière le mot occidental, au moins la seule démocratie de la région fonctionnelle, etc. Ça a toujours été une sorte de définition qu'on a posée à Israël. Cela étant, il faut dire aussi que depuis, après le 7 octobre 2023, disons, Israël a eu tendance à se présenter pour l'Europe et pour la France comme le bouclier de la civilisation occidentale, comme un bouclier démocratique, qui nous cause aussi beaucoup de problèmes, forcément, au niveau géopolitique. On pense évidemment à la question libanaise actuelle, où, comme vous l'avez dit, la question se posera du renouvellement du mandat de la FINUL, de l'implication française au Liban, et ça c'est évidemment dû au Hezbollah, mais c'est aussi dû à l'action particulièrement offensive, contre-offensive, disons, d'Israël. Se pose la même question pour les potentiels réfugiés palestiniens qui pourraient être jusqu'à 2,5 millions selon les chiffres qu'on a actuellement sous la main. Se pose la question évidemment des conséquences économiques de la guerre en Iran. Concrètement, est-ce que Israël est devenu une sorte d'allié toxique pour la France ?
Alors, moi, je reviens toujours au gouvernement de M. Netanyahou, parce que c'est sa stratégie.
Pardon, Je parle en tant que gouvernement, je précise.
Actuellement, il faut rappeler que le gouvernement de M. Netanyahou ne tient que grâce aux partis extrémistes, religieux, qui veulent absolument réimplanter contre toute règle internationale des colonies en Cisjordanie, qui rend donc la Palestine totalement impossible. La Palestine n'est plus qu'une idée maintenant, parce que territorialement, on ne peut plus installer une Palestine dans cette région. Donc, cette position, effectivement, je le répète, c'est la guerre à outrance et on continue la guerre en permanence. Alors, je ne reviendrai pas sur les problèmes personnels de M. Netanyahou, qui fait que tant qu'il y a la guerre et que tant qu'il continue tout cela, il ne passe pas devant un tribunal, parce qu'il est poursuivi en Israël, et tous les Israéliens vous le disent. Et mes amis de confession israélite en France, beaucoup sont très opposés à M. Netanyahou. Donc aujourd'hui, oui, et il s'appuie sur son grand frère, pardonnez-moi le terme, les États-Unis, avec M. Trump et son gendre, surtout Jared Kushner, qui est un soutien ferme de la position de M. Netanyahou, avec Gaza. Et on agite le hochet pour M. Trump en lui disant « Vous êtes le président du Board of Peace et vous allez vous faire beaucoup d'argent dans la région avec, en créant une riviera à Gaza ». Voilà, on est dans des choses qui sont complètement incroyables. Quoi. Et donc, à court terme, je ne vois pas la solution changer. Il faut, vous le disiez, Israël est une démocratie. Laissons-la s'exprimer au mois d'octobre et on verra ce qui se passera à ce moment-là.
Mais j'en reviens à ma question à nouveau, mais justement, est-ce que est-ce qu'Israël n'est pas devenu un allié toxique, encore une fois, au niveau stratégique pour la France dans cette région ? Est-ce que, par exemple, on ne devrait pas, j'en sais rien, changer de partenaire et justement peut-être un petit peu moins être dans le se sentir un petit peu moins allié d'Israël ? D'ailleurs, on voit des mouvements à l'intérieur de l'Europe qui tendent justement à réduire un petit peu le soutien qu'on peut apporter à ce pays. Je pose la question.
Ah oui, non, mais vous avez raison, mais c'est intéressant parce que vous parlez d'Israël, l'allié de la France, mais la France n'est pas l'allié d'Israël. Je rappelle qu'à Washington, pour les négociations, les Israéliens ont refusé que les Français soient présents.
Oui.
Ils ne veulent plus entendre parler des Français à cause de cette position française qui, je le rappelle, a reconnu la Palestine. Alors comment voulez-vous qu'on s'entende avec un pays qui refuse l'existence de la Palestine alors qu'il est la clé, Israël est la clé de la création de la Palestine, avec un pays qui, lui, a reconnu la Palestine? C'est comme avec l'Espagne, en moins exacerbé, mais c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la France ne peut plus parler à Israël. Ne peut plus parler à Israël, et c'est très dommage, mais c'est dû, je le répète, à la position radicale de M. Netanyahou. Et encore une fois, on verra si au mois d'octobre, un certain nombre de décisions sont prises différentes. Et j'en profite pour dire un petit mot qui, j'en suis certain, est extrêmement sensible. Moi, je suis très sensible au fait que mes amis de confession israélite en France puissent avoir des positions différentes de celles de M. Netanyahou.
Bien sûr,
certains les soutiennent, d'autres sont contre, mais... Voilà.
Vous êtes
français,
c'est pas
vous
unanime.
Pouvez... Voilà, exactement.
C'est exactement la même situation d'ailleurs qu'en Israël, où effectivement les communautés juives de France et d'Europe en général sont particulièrement divisées, bien sûr, sur le sujet de la personne de Monsieur Netanyahou. Il y a évidemment un personnage qui sous-tend évidemment toute la politique d'Israël, c'est Donald Trump. Vous en avez brièvement parlé. Aujourd'hui, on ne comprend pas exactement quelle est sa position justement sur la question iranienne, vu qu'on se déplace vers ce conflit-là tout doucement. On ne sait plus exactement où on en est, parce qu'en réalité, il y a un cessez-le-feu qui est ensuite annulé, des négociations qui sont entamées et également annulées par la suite, un blocus qui est mis en place pour contrer le blocus de l'Iran. En réalité, qu'essaye de faire Donald Trump, alors qu'à l'origine, évidemment, il y avait cet objectif de décapiter le régime iranien? Désormais, il semble chercher l'usure par un autre moyen.
Oui, alors moi, je crois que, si vous voulez, j'en reviens à la politique de M. Netanyahou. M. Netanyahou, depuis longtemps, il est ferme, il a une ligne droite, si je peux m'exprimer ainsi, qui est de décapiter le gouvernement à Téhéran. Il a réussi à convaincre Monsieur Trump. Il faut se rappeler qu'ils ont passé 2 heures en tête-à-tête à la Maison-Blanche. Il a réussi à le convaincre, avec des arguments qui pouvaient se comprendre. Moi, le Mossad a infiltré le régime, on sait qu'on peut le décapiter, etc. La première frappe a été effectivement remarquable. Le guide suprême, son fils, etc. Enfin, tout le monde a été touché. Et puis, on passe dans cette phase de frappe de 5 semaines, qui affaiblit considérablement l'Iran, mais qui raffermit le pouvoir des Pasdaran. Et là, donc on en arrive au cessez-le-feu avec les Pasdaran qui sont des grands stratèges, et qui disent, bon, ben nous, on tient les 3 d'Hormuz, et terminé. Et ça irrigue toute la planète en disant, ça y est, là, tout est fichu. Parce que
20% du pétrole et du gaz.
Et beaucoup d'autres choses. Donc, ils tiennent, ils contrôlent le détroit d'Hormuz. Et là, M. Trump vient de changer de stratégie, jusqu'à la prochaine fois. Je dis toujours, quand il dit quelque chose, on attend 48 heures qu'il dise le contraire. Mais là, il vient de changer de stratégie en disant, bon, écoutez, les frappes, ça a été efficace, mais pas tant que ça. On va tenir économiquement l'Iran.
Oui.
Pourquoi? Pour une raison simple. Vous savez, les puits de pétrole, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez foré, ça sort. Et si vous n'arrivez pas à l'exporter, y a un moment où vous avez un problème de stockage. Et l'Iran est dans cette situation. Et donc, il pense étouffer économiquement l'Iran. Et aujourd'hui, les Iraniens, alors on va voir ce qui va se passer, c'était le cas hier, peut-être demain ça sera différent, sont en train de proposer aux Américains de libérer le détroit d'Hormuz. Et M. Poutine vient d'appeler M. Trump hier en lui disant, moi j'ai une proposition à faire sur le nucléaire. Vous savez que c'est l'autre sujet. Et M. Trump, il attend une porte de sortie. Alors, il a beau faire le fiero et dire, moi, j'ai le temps, pas de problème et tout, il a quand même les élections. Il a Pitikzak, son ministre de la guerre, qui est devant le Congrès et qui se fait plutôt malmener.
Oui.
Donc, il est dans une situation un peu difficile.
Et encore une fois, Donald Trump n'est pas les États-Unis ne sont pas en guerre, ils sont en opération militaire spéciale.
Oui.
D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont contourné le Congrès, justement, pour y arriver, mais ce qui ne leur donne pas non plus exactement les mêmes pouvoirs que pour déclencher une guerre.
C'est-à-dire qu'il est au bout de 3 mois, il est obligé de demander des rallonges, etc. etc. Donc, tout ça fait que, pour moi, M. Trump cherche une porte de sortie. Dès qu'il aura quelque chose qui lui permettra de crier « victoire », il le fera. La solution pourrait être « ok, accord sur le détroit d'Ormuz et l'uranium enrichi iranien part vers la Russie ».
Donc finalement, on revient au statu quo ante.
Exactement. L'accord déchiré par M. Trump en 2018 devient l'accord qu'il est en train de rechercher. Il faut rappeler qu'avant le 28 février, le détroit d'Ormuz, il n'y avait pas de problème, tout le monde passait. Hein. Et l'accord de 2015, le JCPOA à Vienne, c'était pas d'enrichissement au-delà de 3,5%. D'ailleurs, au passage, il faudra que les Iraniens m'expliquent un jour pourquoi ils veulent absolument enrichir à plus de 3,5% et qu'ils clament qu'ils ne veulent pas d'armes nucléaires. Ça ne sert à rien. S'ils veulent avoir des centrales nucléaires, eh bien, les 3,5% suffisent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a d'un côté le président Trump qui cherche une porte de sortie, de l'autre côté, les passes d'Aran, qui d'une certaine façon ont gagné parce qu'ils vont garder le pouvoir. Et ça, c'est terrible pour la population iranienne, il faut le rappeler.
Et ce que j'allais... Oui, alors évidemment, mais d'un autre côté, la population iranienne, selon les retours qu'on peut avoir du terrain, alors évidemment, c'est très compliqué, mais d'un autre côté, c'est aussi mis à faire bloc autour du régime, c'est-à-dire que même, je vais vous dire, hein, mais on a reçu des témoignages d'Iraniens qui sont sur place, qui disaient bah, en fait, effectivement, au début, j'ai espéré la chute du régime iranien, du régime des celui qu'on appelle le régime des Mollahs ici en France. J'ai espéré la chute de ce régime, elle n'est pas venue. Ce qui est venu, en revanche, c'est plus de bombes. Et finalement, au bout d'un moment, j'ai simplement vu que les bombardements s'arrêtent, etc. Donc il y a aussi eu un effet de corps qui s'est réalisé au sein du peuple iranien. Évidemment qu'il souhaiterait la chute du régime, mais d'un autre côté, cette affaire montre encore qu'on ne fait pas tomber un régime par les bombes.
Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que la puissance militaire américaine est considérable, incomparable dans le monde. Mais elle se limite d'elle-même, puisqu'ils décident de ne pas aller au sol. N'allant pas au sol, ils ne peuvent pas obtenir le résultat escompté. Tant que vous n'êtes pas présent au sol, comment voulez-vous renverser un régime ? Et on le comprend, les Américains, M. Trump n'a pas été élu pour ça.
Oui, mais d'un côté, il y a aussi même une dimension, on va dire, plus économique, dans le sens où on sait que la perte d'un AWOX, on sait que la perte de plusieurs engins militaires américains, ça a un coût et c'est un symbole qui est négatif, même si le nombre de morts, évidemment, est ridicule au sein de l'armée américaine.
Oui, mais il faut arrêter de croire qu'on fait la guerre sans perte, sans mort, sans blessés. Si vous voulez, l'opération du Venezuela est un mauvais exemple, au sens où c'est remarquablement traité par l'armée américaine, rien à dire. Mais on ne va pas régler tous les problèmes comme ça. Et il y aura des pertes, il y aura des morts. Et c'est pour ça que je dis que le président Trump est dans une situation difficile, parce qu'il ne s'est pas fait élire par ça. Lui, c'est le président de la paix. Plus jamais de guerre comme ça. Et là, il est en train de faire la guerre. Et donc, il se limite lui-même en disant « je ne vais pas intervenir au sol parce que sinon, il y aura des morts, des blessés ». Quand il demande au général Kane, son chef d'état-major, « est-ce que je peux y aller ?», il dit « d'accord, monsieur le président, vous pouvez y aller, mais vous allez avoir des morts, vous allez avoir des blessés, les body bags vont rentrer aux États-Unis. Est-ce que vous voulez ça ? Ah ben non, je ne veux pas ça. Ben, dans ce cas-là, on n'y va pas. » Et vous voyez, on est dans cette situation-là. Donc, du côté du peuple iranien, en fait, ce n'est pas qu'ils ne veulent plus le changement du régime, c'est qu'ils ne veulent plus de bombes. C'est pas la même chose.
Oui, bien sûr.
C'est pas la même chose. Moi, je me souviens d'avoir discuté avec des Iraniens, alors qui disaient, mais regardez la France en 1944, les bombardements en Normandie, les milliers de morts qu'il y a eu pour la libération de la France. Eh bien, on doit accepter ça. Bon, c'est facile à dire sur un plateau radio ça, c'est beaucoup moins facile pour les gens qui sont sur le terrain. Donc, il y a cette difficulté-là. Il y a une autre difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'union d'opposition iranienne aussi. Le fils du Shah, Reza Pahlavi, a été poussé en avant essentiellement par les systèmes israéliens.
Parce que, et américains aussi.
Oui, bien sûr, qui avait chevauché la même position. Mais pourquoi ? Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver vraiment une union des oppositions. Donc, une figure symbolique comme Reza Pahlavi, ça pouvait marcher. Ils l'ont fait, mais aujourd'hui... Où est-ce qu'on en est ? Mais ce que je dis, ce qui est terrible pour le peuple iranien, c'est que les passes d'Aran, vont rester au pouvoir, vont être encore plus féroces qu'ils ont été avant. Alors, ils vous présentent des images où on voit des femmes sans voile qui se promènent, etc. Tout ça, c'est de la propagande. Vous avez à côté les femmes qui sont en djihad complètement fermées avec des kalachnikovs et qui veulent se battre. Et c'est ça, la réalité du régime. Et il maintiendra cette pression sur la population. Alors peut-être ont-ils oublié les voiles, mais tout le reste va être maintenu.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite. Dans un instant, nous allons recevoir Geoffroy Antoine, reporter au JDD, qui rejoindra donc cette discussion. Simplement, avant toute chose, je voudrais rappeler que Radio Courtoisie est une radio indépendante et libre qui ne vit que grâce à vous.
Et si vous voulez contribuer à la pérennisation de Radio Courtoisie et puis également à son développement, je vous invite à nous faire des dons en ligne sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et puis d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. On compte sur vous, c'est très important.
Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, et merci Arnaud.
Ligne Droite,
nous avons de la visite,
le face-à-face.
Et nous sommes rejoints donc par Geoffroy Antoine. Geoffroy Antoine, bonjour. Je rappelle que vous êtes reporter au JDD. Merci d'être avec nous ce matin. Alors effectivement, là on était parti sur cette discussion quant aux objectifs réels de guerre au Moyen-Orient. On comprend effectivement que, comme le disait monsieur le général Trinquant, d'une certaine façon, ce qu'on observe, c'est que Donald Trump cherche à pouvoir dire « j'ai gagné ». Déjà, un premier point, c'est aussi quels sont les... Vous étiez en Israël, je crois, il y a quelques semaines seulement.
Cisjordanie.
Et en Cisjordanie. Déjà, côté des Israéliens, justement, qu'est-ce qu'ils disent de cette guerre? Qu'est-ce qu'ils souhaitent de cette guerre, finalement? Est-ce qu'ils se sentent vraiment oppressés par la menace iranienne, les Israéliens?
Bien sûr, mais il faut être assez honnête. Il y a une menace israélienne qui pèse sur Israël, qui s'est déjà exprimée. On sait que le territoire israélien, malgré ce qui peut être dit, n'est pas sanctuarisé. Alors l'Iron Dome fonctionne extrêmement bien, mais on a vu des obus, des missiles iraniens s'abattre sur le territoire israélien. Et c'est une guerre qui était particulièrement attendue, d'abord par la population israélienne, par la société israélienne, qui était souhaitée par Tzal. Il faut lire cet article extraordinaire du New York Times qui est paru il y a deux semaines, qui raconte comment monsieur Netanyahou, le premier ministre israélien, a réussi à convaincre l'administration américaine d'y aller, de frapper, malgré les réticences d'une partie de l'équipe de Donald Trump, notamment du vice-président J.D. Vance. Donc oui, non, c'était une guerre qui était souhaitée, désirée, avec des conséquences qui, il faut le dire, ne sont pas majeures pour Israël. Les conséquences de cette guerre, elles concernent beaucoup plus les pays du Golfe, l'Iran lui-même, l'économie mondiale, la société israélienne, on va dire survit aux conséquences de la guerre contre l'Iran, malgré évidemment les roquettes du Hezbollah qui ont pu et qui continuent de s'abattre sur le nord du pays.
Oui, mais il y a eu effectivement ces missiles iraniens dont on a appris finalement que on a redécouvert quelque part que l'Iran avait de réelles capacités de projection militaire, notamment depuis la guerre des 12 jours qui a eu lieu donc il y a maintenant près d'un an, je crois, désormais.
Oui, c'était au mois d'août.
Oui, c'est ça, c'était au mois d'août de l'année dernière.
2025. Ouais.
Hein, si vous voulez, la capacité de nuisance, j'appelle ça une capacité de nuisance, de l'Iran est toujours réelle. Elle avait des missiles qui étaient cachés, elle fabrique des drones, etc. Donc elle est capable de fermer. Juste un mot sur la position, je suis tout à fait d'accord, les Israéliens, de toute façon c'est un pays en guerre depuis sa création. Donc ils sont résilients. Vous savez, quand on discute du détroit d'Hormuz, en France, la question c'est est-ce que je vais pouvoir partir en vacances ? On n'est pas tout à fait sur le même tempo, quoi. Voilà, les Israéliens, ils se disent, ça y est, faut y aller, parce que tant qu'on n'aura pas, je répète, coupé la tête de la pieuvre, eh ben, on continuera à avoir des problèmes partout. Donc, c'est un peuple résilient parce qu'il est en guerre. Nous sommes un peuple qui pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale, qui avons établi une ère de paix qui s'appelle l'Europe, qui a progressivement progressé à l'Ouest avec la chute de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie. Et on doit réapprendre aujourd'hui que la guerre peut faire partie et qu'on doit se préparer à se défendre. Alors, les empires n'existent plus. Hein. La Russie, les États-Unis, la Russie cherche, hein. Poutine cherche à rétablir un empire. Mais en Europe, on avait l'empire allemand, l'empire français, l'empire anglais. Tout ça, c'était la guerre. On a oublié tout ça. Et on doit oublier cette façon d'envahir et de faire la guerre. En revanche, on doit redécouvrir la façon de se préparer à la guerre pour se défendre et être dissuasif. Et ça, c'est quelque chose que les citoyens doivent redécouvrir parce que la guerre est revenue d'abord à l'Est et maintenant au Moyen-Orient, et c'est un sujet important.
Mais d'une certaine façon, on a l'impression que les capacités militaires françaises ne sont pas tellement en cause dans ce conflit, par exemple, au Moyen-Orient. D'une certaine façon, on a l'impression que c'est surtout une faiblesse diplomatique quelque part qui fait que, encore une fois, on a cette offensive s'est faite absolument sans que la France soit de près ou de loin, et d'ailleurs l'Europe, hein, en général, soit de près ou de loin consultée sur son déclenchement. En revanche, nous sommes parmi les premiers, on va dire, à en subir les conséquences.
Alors, d'abord, personne n'a été consulté. C'était un sujet israélo-américain, point. Alors après ça, aller demander l'aide des autres qu'on n'a pas prévenus, ça me paraît un peu incongru, d'une certaine façon. Moi, j'étais à New York en 2003, quand les États-Unis sont partis en guerre en Irak. Je peux vous dire qu'on a discuté pendant des mois. Pendant des mois, ils ont cherché à nous associer. Puis finalement, on a décidé de ne pas y aller, très bien. Mais au moins, on avait discuté. Là, rien, zéro. En revanche, la France, quand elle parle du détroit d'Hormuz, non pas pour le libérer, mais pour le sécuriser une fois la guerre finie, elle réussit à réunir 42 pays. 42 pays, donc la France n'est pas seule. L'Asie, le Moyen-Orient dit, bah bien sûr, nous on est embêtés par le détroit d'Hormuz, les États-Unis pas du tout. Hein. On est prêt à aider. Donc, si vous voulez, la position diplomatique que vous soulignez, il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas la France qui se retrouve seule. C'est au contraire les États-Unis qui se retrouvent seuls.
Oui, d'ailleurs, je me permets juste d'ajouter que vous avez évoqué une faiblesse diplomatique. Je ne sais pas si c'est une faiblesse, je dirais plutôt que c'est une forme de constance diplomatique depuis le début de l'entrée en guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran. La France a une position assez claire, il faut le reconnaître. Ce n'est pas notre guerre. Et pour le coup, on s'y tient jusque-là. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de défiance et de crainte, d'abord pour assumer les coûts militaires d'un déploiement naval, aéronaval au Proche-Orient et au Moyen-Orient qui coûterait extrêmement cher. Et puis la crainte de voir des hommes et des femmes tomber sous les obus, sous les missiles iraniens ou des proxys iraniens.
Et justement, Geoffroy Antoine, est-ce que cette offensive, encore une fois, menée sans la consultation de la France et de l'Europe, ça ne va pas marquer une forme de divorce entre une forme de, d'un côté le couple israélo-américain et de l'autre, effectivement, le vieux continent ?
Je pense que le divorce n'est pas né avec l'Iran. Le divorce, il est né avec l'Ukraine. Le jour où Donald Trump est de nouveau élu à la Maison-Blanche, a dit l'Ukraine, on l'abandonne, parce que c'est globalement ce qu'ils ont fait, là où l'Europe se retrouve à assumer seule les coûts de la résistance ukrainienne face à l'agression russe, qui sont des coûts dithyrambiques, hein, il faut bien le dire, 90 milliards, on l'a encore vu. Donc le divorce est en cours d'être consommé, en fait. Et sur Israël, il y a toujours eu un jeu un petit peu ambigu entre la France et Israël. Hein. Ça n'a jamais été un couple « je t'aime et moi aussi », c'est plutôt « je t'aime moi non plus ». Et là, on le voit qu'effectivement, il y a une véritable rupture, d'abord sociétale. Les derniers sondages montrent que les Français sont plutôt contre la politique israélienne au Proche-Orient, sont contre les colonisations de la Cisjordanie, et les Israéliens se détachent progressivement de la France et réalisent qu'effectivement, ils ne pourront pas compter sur Emmanuel Macron, en tout cas tant qu'il est au pouvoir, pour soutenir Israël.
Et même d'ailleurs, d'autres sondages montrent que Donald Trump est aujourd'hui vu comme étant une menace par un grand nombre de Français. Je crois que les Espagnols et les Anglais considèrent aussi de plus en plus, enfin le considèrent en majorité à minima comme un rival, à maximum comme une menace. Justement, est-ce qu'il y a une rupture dans l'Occident, finalement, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir? Vous n'avez pas cité le Groenland, mais aussi qui a été évidemment le point culminant peut-être de tout ça. En réalité, est-ce qu'on pourrait arriver à une forme de division stratégique sur le long terme?
Alors, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la ligne de front américaine qui s'éloigne de l'Europe. Et à mon avis, à juste titre, les Européens, vous êtes capables, vous êtes assez riches pour vous débrouiller, vous équiper tout seul. Pourquoi est-ce que votre sécurité dépendrait uniquement des Américains? Ça, c'est la ligne de fond. M. Biden, malgré les discours, était un peu sur la même ligne. Hein. Et c'est Obama qui a commencé le virage vers l'Asie, hein, faut le rappeler. Donc, il y a la ligne de fond. Et puis après ça, il y a la méthode Trump. Alors ça, c'est autre chose. La méthode Trump, vous savez, j'ai cité Sun Tzu, le grand stratège chinois, qui disait que être imprévisible, c'est une force face à un adversaire. Et pour être vraiment imprévisible, il faut que vous-même ne sachiez pas ce que vous voulez prévoir. Et c'est un peu ça, M. Trump. On ne sait pas ce qu'il veut prévoir. Est-ce qu'il le sait lui-même? Je ne le pense pas non plus. Et donc là, on a une difficulté. Si vous voulez, si vous avez une ligne de force, eh ben, vous vous alignez, vous voyez, etc. Tout à l'heure, vous parliez très justement de la position entre la France et Israël. On a notre position, ils ont leur position, on n'est pas d'accord, c'est sur le long terme, on le sait. Mais quand ça change tout le temps, et là, quand vous entendez la discussion entre M. Poutine et M. Trump hier, Poutine dit « j'ai beaucoup parlé de l'Iran » et M. Trump dit « il m'a beaucoup parlé de l'Ukraine ». Bon, alors, entre les deux, on ne sait pas. Il est évident que M. Trump ne veut pas que ce soit M. Poutine qui lui fasse un cadeau à propos de l'Iran, même si ça va peut-être être la réalité. Mais il parle de l'Ukraine, alors que pour l'Ukraine, les États-Unis ne font plus rien aujourd'hui, plus rien.
Un petit peu de renseignements, mais...
Un petit peu, mais c'est tout.
Très léger.
Et donc, c'est les Européens qui se retrouvent en ligne. Mais je reviens à ce que je vous disais à propos de notre aptitude à nous défendre. Aujourd'hui, l'Ukraine est la ligne de défense face à M. Poutine. Il faut les soutenir. Et nous, il faut nous préparer. Et je répète, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour empêcher la guerre. M. Poutine, il n'a pas besoin de faire la guerre à l'Europe. Si il attaque sur un point, Lituanie ou Estonie, et qu'on ne fasse rien, l'Europe se délite. Se délite.
Oui, mais à ce moment-là, ce qu'on répondra de manière générale, c'est qu'on voit mal Vladimir Poutine lancer une offensive sur les pays baltes, alors que déjà, il est en grande difficulté sur l'Ukraine.
Mais je vais vous dire, ce n'est pas une offensive sur les pays baltes. Allez prendre la ville qui est de l'autre côté de la rivière, en Estonie. Très facile. Il rentre là. Je ne dis pas qu'ils le prennent, ils rentrent là. Le couloir de Suwalski qui mène à la presqu'île, l'enclave de Kaliningrad, ils rentrent là. Simplement, ils rentrent. Qu'est-ce que fait l'Europe? Est-ce qu'elle décide d'aller combattre ou elle commence à tergiverser?
Mais pourquoi Vladimir Poutine ferait ça en l'occurrence?
Parce que l'Europe est un ennemi pour Poutine. Pourquoi? Le sujet de l'Ukraine est le même. Les Européens, la vision européenne est quelque chose qui s'oppose à la dictature de monsieur Poutine. Il a peur qu'une grande partie de la population russe préfère être européen plutôt que dans les systèmes mis en place par monsieur Poutine aujourd'hui. Regardez au moment du déclaration de la guerre, le nombre de Russes qui sont partis en Arménie, à Dubaï, etc.
C'est pas pour des raisons de dictature, c'est parce que la guerre était lancée quelque part. C'est-à-dire que c'est encore un autre problème. Là, vous êtes en train de dire que c'est pour des raisons idéologiques Vladimir Poutine
déclare la guerre en Europe. Est-ce que vous croyez? Bien sûr. Totalement pour des raisons idéologiques. On est dans des systèmes qui sont totalement opposés. Alors, M. Poutine vous parle de tradition, qui est un pur discours, qui n'a pas de réalité. Allez voir ce qui se passe au Kremlin. Ça n'a rien à voir.
Non, mais sur le fond idéologique, c'est vrai que quand Vladimir Poutine se targue d'être l'un des derniers bastions de l'Occident chrétien, enfin, je veux dire, c'est faux. Vous tapez Ramadan Moscou 2025, vous comprenez que c'est un pays qui a les mêmes problèmes d'islamisation, c'est un pays qui a des problèmes d'alcoolisme, d'avortement, de divorce, etc. C'est pas un bastion conservateur.
C'est un pays où la GPA existe, d'ailleurs.
Bien sûr. Bon, l'Ukraine aussi, vous allez me dire. Mais... Par contre, j'aimerais juste ajouter un point sur l'Estonie, la Lituanie, c'est que au-delà d'un potentiel offensive militaire russe, il y a une composante qui ressemble à l'Ukraine, c'est qu'il y a une minorité russe, des minorités russes très importantes dans ce pays, parfois jusqu'à 30%, très mal, très peu intégrées dans les sociétés lituaniennes et estoniennes, beaucoup de délinquance, beaucoup d'insécurité du côté de ces minorités-là. Elles pourraient, et ça a déjà été tenté, être agitées par le Kremlin pour créer des désordres, et puis on sait, les fameux petits hommes verts qui se révoltent, et ensuite ça pourrait justifier une intervention militaire russe.
Tout à fait, c'est une méthode, et je voudrais juste rappeler que pourquoi y a-t-il des minorités russes dans ces pays? Parce que les populations de ces pays ont été déportées, un tiers de ces populations ont été déportées en Sibérie et remplacées par des Russes. Faut revenir à la réalité des choses. Donc c'est pas une enclave russe. C'est simplement des populations qui ont été importées pour remplacer des populations déportées en Sibérie.
Bien sûr, mais alors d'un autre côté justement sur cette offensive, et évidemment que ça pourrait être un moyen pour Vladimir Poutine sans doute de tester l'effectivité quelque part de la défense européenne ou en tout cas même otanienne d'une certaine façon, cela étant... encore une fois, est-ce qu'il en a seulement les moyens? Et à côté de ça, en cas de riposte, est-ce que ça ne signerait pas l'arrêt de mort de la Russie?
Alors, je crois que les moyens, ça vient d'être exposé, c'est comme ça que je vois les moyens, hein, c'est-à-dire les minorités agitées avec des infiltrations, etc., etc. Un peu ce qui s'est passé en 2014, lorsqu'ils sont allés prendre avec des petits hommes verts. C'est de la même façon. Alors, la mort de la Russie, non, pas la mort de la Russie, la mort du régime de Poutine.
Oui.
Pardonnez-moi, moi j'aime énormément la Russie. C'est un pays formidable, mais qui ne mérite pas le gouvernement qu'il a aujourd'hui, qui en fait est là pour maintenir son pouvoir. C'est un peu comme les Pasdaran, vous voyez, ils veulent maintenir leur pouvoir, à la fois économique et idéologique, et c'est ça qui les intéresse. La population russe ne les intéresse pas. Je dis aujourd'hui, M. Poutine détruit l'Ukraine et saigne la Russie. Il saigne la Russie. Le nombre de morts
très dur à estimer, cela étant le nombre de morts. Mais
c'est très dur à estimer.
Ça se compte au moins en centaines de milliers, ça c'est certain.
Moi j'ai rencontré des combattants, des Français, qui étaient allés combattre en Ukraine, qui me disaient, mais les vagues russes, c'était tout simplement, on tuait, puis ils finissaient par passer, parce qu'ils submergeaient le dispositif. Donc, quand vous aimez votre population, vous ne l'envoyez pas au massacre comme ça. Vous comprenez ? Staline pouvait le faire, il a eu des millions de morts, parce qu'il y avait une population gigantesque. Aujourd'hui, la démographie russe, c'est taux de fécondité 1,4. C'est un pays qui est en train de mourir démographiquement. Alors si en plus vous envoyez les jeunes gens se faire tuer, vous avez des chances pour que le pays soit totalement saigné.
J'aimerais préciser que ce scénario qu'on évoque, là, vous savez, des petits hommes verts, de la déstabilisation de certaines minorités à l'est de l'Europe, ce n'est pas un scénario qui est fantasmagorique. C'est un scénario qui a été évoqué par le chef d'état-major des armées de terre, le général Pierre Schill, pas plus tard qu'il y a 2 semaines à l'école de guerre. Il disait, voilà, nous, c'est le scénario 2030 auquel on se prépare. Et ce qu'est en train de faire la France, qui est vraiment leader en Europe là-dessus, avec l'Allemagne qui se réarme, c'est de créer une dissuasion conventionnelle, donc pas uniquement nucléaire, pour dire, si jamais vous faites ça, si la Russie vous tentez de déstabiliser pour ensuite faire un scénario bis repetita de 2014, on sera là. On sera là. Donc on ne se prépare pas à la guerre, on se prépare à une dissuasion conventionnelle pour dire, nous ne laisserons pas la Russie faire ce qu'elle a fait en Ukraine.
Et alors, justement, une question se pose. Emmanuel Macron déclarait l'autre jour qu'il n'avait pas besoin de l'OTAN, finalement, pour pouvoir réagir dans le cadre d'une offensive, symbole qui ne compte plus, visiblement, sur Washington. D'un autre côté, il expliquait que les traités de l'Union européenne seraient suffisants pour permettre une riposte face à une éventuelle offensive.
Alors ça, c'est le fameux article 42.7 de l'Union européenne. Mais vous savez qu'il y avait une réunion à Chypre et tous les pays européens en ont discuté. Parce que c'est bien d'avoir l'article, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Et en fait, il est plus contraignant que l'article 5 de l'OTAN. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Je pense que là, peut-être que le président Macron va un peu vite en besogne. C'est un objectif. Ça ne veut pas dire que ça marche aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que c'est un objectif ? L'OTAN s'est fait de quoi ? C'est fait des États-Unis et du Canada, ne les oublions pas, et des Européens. Eh bien, renforçons le pilier européen de l'OTAN, donnant la capacité aux Européens de se passer des Américains. Et si les Américains veulent partir, c'est pas nous qui les poussons dehors, c'est eux qui veulent partir. Si les Américains veulent partir, on se donne les capacités de le faire. Et il y a des exercices très intéressants. Vous savez, la coalition des volontaires, qui est faite pour intervenir s'il y a la paix, pas pour faire la guerre. Mais elle fait des exercices aujourd'hui sans un seul soldat, sans un seul avion américain. Et on y arrive. Et donc, on est en train, progressivement, de roder un système dans lequel on puisse travailler. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire. Hein. Les 3,5% de PIB consacrés à la défense, c'en est une chose. Il y a l'armement qui dépend essentiellement des Européens. Pour l'instant, les accords disent 65% d'armement européen pour avoir des financements européens. Et puis, il y a l'OTAN, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une coordination internationale de forces nationales. Ben, ça, on est capable de faire ça dans l'OTAN, dans l'Europe. Alors, avec une difficulté particulière. C'est que quand les Américains sont leadership, tout le monde se met au garde à vous et obéit. Ça se passe bien. Bon, quand il n'y aura plus les Américains, vous allez avoir les Allemands, les Britanniques, les Français, les Polonais qui vont tous vouloir être les chefs là-dedans. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais ça doit se travailler. Donc on n'est pas aujourd'hui en mesure de le faire, mais je pense que demain on sera en mesure de le faire, oui.
Alors justement, est-ce que c'est... aujourd'hui, on parle même, encore une fois, je reviens un petit peu sur ce sujet, mais on a parlé de la menace russe, on a parlé du conflit au Moyen-Orient. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe une menace américaine d'une certaine façon ? C'est-à-dire que c'est la question qu'on se posait déjà au moment du Groenland. Évidemment qu'on ne s'attend pas à ce que la France, le Royaume-Uni soient envahis par les États-Unis. On n'en est pas là. D'ailleurs, le roi d'Angleterre est présent actuellement aux États-Unis, mais d'une certaine façon, on a l'impression que il y a eu un très grand refroidissement quand même des relations entre l'Europe et l'Amérique. Vous parlez effectivement de cette potentielle alternative à l'OTAN que serait ce qu'on appelle l'Europe de la défense aujourd'hui. Est-ce que aujourd'hui il faut traiter est-ce que déjà les États-Unis nous traitent comme toujours comme un vassal, comme un rival ? Quelle est la position qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis ?
Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Je pense vraiment que les États-Unis nous ont toujours traités depuis 1945 comme un vassal. Comme un rival, peut-être pas, mais comme un vassal, parce qu'il y avait une domination absolue. Quand il y a une domination absolue, forcément, il y a un dominant et un dominé. Les États-Unis, qu'on le veuille ou non, nous dominent économiquement, militairement, nous dominent en termes de renseignement, nous dominent en termes d'innovation technologique. Et malgré tous les efforts qu'on fait et qu'on tente de faire, il y a encore de nombreux obstacles. Je ne pense pas que l'alliance entre les États européens et les États-Unis soit aujourd'hui remise en question. Maintenant, c'est un petit peu ce qu'écrit, vous savez, Giuliano D'Ampoli dans son livre « L'heure des prédateurs ». C'est que cet ordre mondial stipulant que les États-Unis assurent la sécurité mondiale avec assez peu de choses en retour est effectivement en train de s'éroder. Les États-Unis se comportent comme une puissance prédatrice, au même titre que la Russie, au même titre que la Chine. Et voilà, il faut faire avec, mais plutôt que de se dire « est-ce qu'on continue notre alliance ? Est-ce qu'on arrête notre alliance ?» Je pense que c'est pour nous l'heure du sursaut. Et de se dire que l'Europe n'est pas à sortir de l'histoire et au contraire, elle peut elle aussi non pas s'affirmer comme une puissance prédatrice, mais s'affirmer comme une puissance unie, non pas fédérale, mais unie, qui puisse rivaliser avec les États-Unis ou avec la Chine. Et il ne faut pas croire que c'est une utopie. C'est quelque chose qui est possible, qui est envisageable, vraiment.
Mais alors justement, si les États-Unis préemptent avec notamment le rôle de la paix à nouveau, avec leur Board of Peace, par exemple, quel pourrait être le rôle de l'Europe ? C'est-à-dire que parfois, on parle de la France, même au-delà de l'Europe, mais on parle de la France comme s'il fallait qu'on devienne une sorte de Suisse internationale pour être neutre dans chaque circonstance. Dans quel cadre on pourrait exprimer cette force est quelque part, à part éventuellement, évidemment, résister et se créer des capacités de résistance face aux envahisseurs extérieurs, où est-ce qu'on pourrait projeter cette force d'une certaine façon ?
Alors, on ne peut projeter la force militaire parce que ça ne marche pas et qu'on n'y arrive plus.
La France l'a fait au Sahel, par exemple.
Oui, on pourrait parler du Mali deux minutes, oui, de voir la catastrophe. Oui. C'est-à-dire que pendant 10 ans, la force Barkhane a réussi à maintenir une certaine stabilité dans le pays. On voit qu'à 4 ans après son départ, c'est la catastrophe. Et que les mercenaires russes sont absolument incapables de défendre cette zone.
Mais non, la projection française avait fonctionné.
Oui, non, mais elle avait fonctionné à la demande des pays.
Elle n'a pas tout à fait fonctionné. Il y a quand même de gros errements.
Elle avait fonctionné sur le plan militaire, sauf que la solution, elle n'est pas militaire, elle est politique. Et que les politiques n'avaient pas été capables de régler le problème, d'où les coups d'État qu'il y a eu avec les jeunes qui sont arrivés. Simplement un point sur la position que je partage complètement sur l'Europe, mais il faut se méfier. Nous, Français, on a été biberonnés par le général de Gaulle à l'autonomie et l'indépendance. Et donc, c'est notre discours depuis le général de Gaulle, depuis 58, on est comme ça. Sauf que les autres pays européens ne sont pas exactement sur la même ligne. Et eux, les Allemands, il faut rappeler que l'armée a été créée dans le cadre de l'OTAN. Hors de l'OTAN, ils ne savent pas faire. Les Britanniques, je ne reviens pas sur la special relationship, et au passage, j'ai admiré beaucoup le discours du roi Charles, à la fois au congrès et au dîner. Ça a été un moment extraordinaire quand il a expliqué aux Américains « Sans nous, vous parleriez français ». C'est quand même pas mal.
Avec l'humour british qu'on apprécie toujours.
Et de souligner au passage qu'un roi d'Angleterre vient célébrer une défaite britannique aux États-Unis. Ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que vous rappelez que ça a été quand même la défaite britannique. Donc, on est dans cette position-là. Il faut arriver à convaincre les autres Européens. On y arrive petit à petit. C'est compliqué. Et on doit appliquer une règle absolue qui n'est pas vraiment notre meilleure qualité, c'est l'humilité. Il faut absolument être humble vis-à-vis des autres Européens.
Humble et ambitieux, quelque part, à la fois. Mais
vous voyez, pour arriver à convaincre les autres Européens que c'est la bonne voie, parce que eux, moi j'ai beaucoup travaillé avec tous les pays européens, ils sont totalement inféodés aux Américains. Ils ne savent pas faire sans les Américains. Il n'y a que les Français, en gros, qui savent le faire. Donc, il faut les amener progressivement à réfléchir à ça. Et l'objectif, c'est le quoi ? C'est de défendre ce que nous sommes. Attendez, l'Europe, c'est 450 millions d'habitants, 100 millions de plus que les États-Unis. C'est la troisième puissance économique mondiale. Si on cumule tous les budgets de défense, on est la deuxième puissance militaire au monde. Alors, arrêtons d'avoir peur, de dire qu'on n'est pas capable. Alors certes, on va peut-être se poser des questions pour les vacances prochaines. Je reviens à la question qui a été posée à propos du détroit d'Ormuz, mais il y a des choix à faire.
Geoffroy-Antoine ?
Non, mais moi, je partage tout à fait ce constat. Alors effectivement, il y a encore de gros obstacles, parce qu'il y a aussi une question d'industrie de défense, d'économie pure et dure. Et c'est vrai que la France a ses intérêts à faire valoir, parce qu'on produit des avions, on produit des missiles. Et malheureusement, on n'est pas toujours les bénéficiaires des achats de nos partenaires. L'Allemagne, la Pologne achètent coréens, achètent américains. Donc il va falloir se mettre d'accord sur ce cadre économique. Mais je crois que depuis 2022, il y a une évolution parfaitement notable de la défense européenne. C'est la première fois dans l'histoire du vieux continent qu'on perçoit à quel point nos intérêts finalement sont convergents, et pas seulement sur les aspects géopolitiques, nos aspects convergent aussi sur les aspects sociétaux. L'immigration, je pense que ça devient de plus en plus consensuel en Europe, les fractures sociétales. Voilà, donc on réalise aujourd'hui que ce continent a tout pour s'unir et se rapprocher encore plus qu'il ne l'était. Et maintenant, il faut que les forces politiques françaises, allemandes, italiennes aillent dans ce sens. C'est pas encore tout à fait le cas, mais je pense que les prémices sont là.
Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci beaucoup, Geoffroy Antoine, d'avoir été avec nous ici ce matin sur Ligne Droite. Et chers auditeurs, évidemment, on reparlera de ces sujets la semaine prochaine avec des personnes que vous connaissez, qu'on a l'habitude de recevoir. Ne vous en faites pas. Merci d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à bientôt ici sur Radio Courtoisie.
Merci. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h15. Dans un instant, ce sera la chronique de Mathilda de Nemesis. Et puis ensuite, à 8h20, Jeremy Stubbs nous rejoindra pour parler de Keir Starmer. Mais tout de suite, un rappel des titres de l'actualité avec Maëlys Clausel.
Alors que le rapport de Charles Lancle vient d'être publié, Éric Ciotti annonce la création d'une commission d'enquête à l'Assemblée pour obtenir les vrais chiffres sur le coût de l'immigration dans un contexte de rejet croissant de l'immigration par l'opinion publique. Et François Ruvin crée la surprise en s'opposant à l'immigration pour le travail, dénonçant une pression à la baisse sur les salaires des Français, une position qui lui vaut un tollé à gauche de Nathalie Arthaud à Andy Kerbra et met en lumière les fractures d'un camp gauchiste déjà divisé à l'approche de 2027. Et les Émirats arabes unis annoncent leur retrait de l'OPEP dès le 1er mai, une décision qui pourrait déstabiliser le marché pétrolier et enchaîner une hausse des prix. Pour la France, cela signifie surtout carburant plus Seawares, inflation persistante et pression accrue sur le pouvoir d'achat. Et nous célébrons ce 30 avril Saint-Pie-V, Saint-Robert-de-Molème, Saint-Adjuteur et la bienheureuse Rosemonde.
Le pouvoir d'achat. Merci Maëlys.
Ligne droite.
Et désormais, nous recevons Mathilda du collectif Nemesis. Vous êtes porte-parole et cofondatrice. Mathilda, bonjour. Est-ce que vous êtes bien avec nous ?
Bonjour. Oui, je vous entends bien. Merci.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, de quoi vouliez-vous nous parler ?
Eh bien, ce matin, on va parler de Sandrine Rousseau, notre chère Sandrine Rousseau. Avant-hier, Sandrine Rousseau a déclaré sur Sud Radio. La religion catholique est le plus grand boys club du monde. C'est-à-dire que dans la religion catholique, il n'y a pas une seule femme qui a le droit d'être évêque, qui a le droit d'être prêtre, qui a le droit de rentrer dans la hiérarchie de l'Église catholique. C'est une misogynie. Je tenais donc à rappeler ceci à Sandrine Rousseau, qui pense que ne pas accéder à l'épiscopat est un drame civilisationnel bien plus urgent que les mutilations génitales et les mariages forcés de fillettes de 9 ans. Chaque année, 12 millions de fillettes sont mariées de force dans le monde. 12 millions par an. Le Niger détient un triste record. 75% des filles avant 18 ans. Il y a ensuite le Tchad, le Mali, Centrafrique et en Inde, le plus gros volume absolu. Mais zoomons sur vos chers pays musulmans, Sandrine, ceux que vous défendez avec ferveur dès qu'on ose en parler. En Afghanistan, plus de la moitié des filles sont mariées avant 15 ans. Au Bangladesh, des taux délirants, avec des gamines de 12-13 ans unies à des hommes qui pourraient être leurs grands-pères. Mais ces mêmes Afghans, ceux qui marient leurs fillettes, sont ceux que Sandrine Rousseau préfère garder en France pour les surveiller. Une proposition politique pour le moins audacieuse. Enfin bref, Pakistan, Indonésie, Yémen, Irak, partout, le mariage des enfants reste une tradition vivace sous couvert religieux. Revenons à présent sur l'Iran, ce pays qui ne fait toujours pas partie de ceux à majorité catholique, condamne à mort les femmes qui osent montrer un bout de cheveux. Là-bas, la police des mœurs ne porte pas de soutane, mais elle lapide sur la place publique les mécréantes. Eux aussi, sans doute, considèrent-ils que le voile est un embellissement de la femme. Ah non, pardon, ça, ce sont les propos de Sandrine Rousseau. En Arabie Saoudite, cela ne fait que quelques années que les femmes ont le droit de conduire. Plus récemment, elles ont obtenu le droit de voyager seules et donc d'avoir leur propre passeport, sans demander à leur tuteur. Oh oui, leur tuteur, à savoir leur père ou leur mari. Là encore, ce n'est toujours pas l'Église qui leur avait enlevé ces droits. Et l'excision, ce petit rituel culturel que vous oubliez étrangement. En Somalie, 98 à 99% des femmes. En Guinée, au Mali, en Égypte, en Indonésie, ce sont des dizaines de millions de cas. En 2026, on parle encore de fillettes de 5 à 10 ans à qui on retire les organes génitaux au cutter ou au rasoir, souvent sans anesthésie. Mais Sandrine, elle, elle s'indigne contre le Vatican qui refuse d'ordonner des prêtresses. Sandrine n'a-t-elle pas assez de temps de parole pour dénoncer tout ça ? Ou c'est juste que ça fait moins bien que de taper sur les curés ? En attendant, le christianisme a fait de la Sainte Vierge Marie la plus vénérée après le Christ. Depuis l'époque médiévale, les couvents ont permis aux femmes de lire, écrire et exercer une influence intellectuelle. Sandrine, si votre démarche à travers cette sortie maladroite est dans le but d'obtenir un exorcisme ou l'absolution de vos péchés, sachez que vous pouvez vous rendre directement dans une église proche de chez vous. Là-bas, vous ne serez ni stigmatisé ni jugé et après une confession de seulement quelques minutes, vous serez expié de vos péchés et de vos outrances qui ne seront qu'un lointain souvenir. N'hésitez pas à profiter de ce qui est la plus belle chose dans notre religion, à savoir la rémission des péchés. Blague à part à toutes les féministes de gauche, silencieuses sur toutes les oppressions patriarcales qui ne viennent pas du méchant homme blanc. Arrêtez de transformer l'absence de femmes évêques en drame misogyne, alors que des petites filles se font coudre le vagin au fil de pêche. Battez-vous pour des causes justes. Ou ne soyez pas surprise qu'on ne vous prenne pas au sérieux.
Bah écoutez, Mathilda, Somalie, Pakistan, Afghanistan, Niger, Inde, il y aurait presque un classement à faire des pires pays à ce niveau-là. Merci d'avoir été avec nous ici ce matin. Et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Ligne droite, débattons-en.
Et pour ce nouvel entretien, j'ai le plaisir de recevoir ici Jérémy Stubbs. Jérémy Stubbs, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur et puis président aussi de la section française, on va dire, des conservateurs britanniques. Alors aujourd'hui, on voulait parler avec vous de la politique du Royaume-Uni. Peut-être avant cela, un côté un petit peu international. Le roi Charles III est actuellement à Washington pour une réunion particulièrement hautement symbolique et importante, oui. Alors que de plus en plus de Britanniques considèrent maintenant les États-Unis de Donald Trump comme une menace. Est-ce que c'est le genre de visite qui pourrait réchauffer un petit peu les relations entre les deux pays ?
Oui, tout à fait. C'est en train de faire son effet. Il s'agit surtout de faire aimer de nouveau le Royaume-Uni par le président Trump. Mmh. Et lui aussi, il comprend qu'il y a toujours un certain enthousiasme, on peut dire anglophile, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc le roi joue là-dessus. Il faut dire quand même que c'est la deuxième fois que le Royaume-Uni joue la carte royauté, parce qu'on a reçu Donald Trump au mois de septembre, donc c'est le match retour.
C'est un peu le joker, finalement.
On ne peut pas jouer trois fois le joker, exactement. Mais bon, pour le moment, ça marche bien. Qui sait ce qui va se passer après ? Tout veut tourner au vinaigre à n'importe quel moment dans les mois à venir, étant donné la situation internationale en ce moment. Mais bon, pour l'instant, profitons de cette interlude agréable.
Exactement. Alors, maintenant, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus terre-à-terre. C'est évidemment donc, la politique britannique. La question, Keir Starmer a été quand même au cœur d'un énorme scandale, notamment à cause de la nomination de Peter Mandelson. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu toute cette histoire ?
Eh bien, pour faire le plus court possible, Mandelson, c'est un ancien ministre travailliste qui a dû démissionner au moins deux fois dans le passé. Donc, c'est une sorte de margoulin de la politique. Et Starmer s'est laissé persuader en 2024 que un tel homme à Washington, ça permettrait au Royaume-Uni de gérer en quelque sorte l'administration Trump. En l'occurrence, donc il a été nommé à Washington, mais avec la publication des Epstein Files, les documents Epstein, on a découvert qu'il y avait des liens très forts entre cet homme et Epstein, des liens tellement forts que la police a lancé une enquête parce qu'il aurait divulgué des secrets d'État à son correspondant pédophile.
Alors qu'il était nommé par Keir Starmer, donc.
Et donc, cette révélation est arrivée en automne. Donc, il était déjà en poste depuis le début de l'année. Et après est arrivé un autre scandale, quand on a appris, il y a quelques semaines, que le processus d'évaluation du point de vue de la sécurité de cet homme a conduit à un verdict négatif, parce qu'il avait des liens en tant que lobbyiste avec des entreprises chinoises et même russes. Donc, il avait été nommé en dépit de cet échec, et Starmer, on comprend bien, a plus ou moins couvert.
Et lui nie justement avoir la moindre, Keir Starmer, donc le Premier ministre, nie avoir la moindre connaissance de toute affaire liée à Peter Mandelson.
Voilà, c'est comme dans un film policier où il y a le criminel avec la flingue, la fumée qui sort du bout et on le trouve devant le cadavre. Donc, il est pris pour le moment, mais il a survécu parce qu'on attend des élections la semaine prochaine.
Et alors justement, pourquoi attendez-vous où attend-on les élections la semaine prochaine?
Eh bien, la semaine prochaine, il y a d'abord des élections pour le Parlement écossais et le Parlement, on appelle ça Assemblée ou en gallois, Sénède ou Pays de Galles. Il y aura un nouveau ministre. On ne dit pas Premier ministre, parce que le Premier ministre est à Londres, mais ministre premier, en quelque sorte, ministre principal.
C'est la différence entre First Minister et Prime Minister, c'est
exactement.
Ça
Exactement. Vous avez parfaitement raison, c'est First Minister. Donc, il y a ces élections-là qui sont quand même très importantes, puisqu'il s'agit de pays, en quelque sorte, membres du Royaume-Uni. Et puis, il y a des milliers de sièges de conseillers municipaux à travers l'Angleterre. Donc, ça va être énorme.
Et alors là, ce qui est attendu, pour le coup, c'est une sorte de, on va pas dire de raz-de-marée, mais de percée électorale très importante du parti Reform UK, donc dirigé par Nigel Farage. Alors, en l'occurrence, même si je me souviens bien des derniers sondages, Reform UK est prévu pour une très importante percée, notamment au Pays de Galles, où, évidemment, il y a également le parti gallois, dont le nom m'échappe tout à fait présentement. Parce
le
que
Plaid Cymru, mais c'est difficile à prononcer.
C'est ce que j'allais dire, c'est pour ça que ça m'échappait. Merci de me sauver. Mais effectivement, donc, ce parti gallois, nationaliste gallois, disons, et Reform UK sont, on attend de très forts scores de leur part, ainsi que du parti écologiste, les Greens britanniques. Finalement, c'est les trois partis, pour rester sur le Pays de Galles, qui pourraient faire la grande percée, alors que les partis traditionnels, eux, donc évidemment les conservateurs et puis les travaillistes, eux, sont attendus pour une forte baisse, pour le coup.
Oui, oui, le vote travailliste et conservateur va s'effondrer en Écosse, au Pays de Galles et en Angleterre. Bingo. Les trois. Et le gagnant principal va être Reform.
Oui.
De Farage. En Écosse, les nationalistes, le parti nationaliste écossais va probablement rester en place avec une majorité réduite. Et au Pays de Galles, probablement, on aura le parti nationaliste en première place. Est-ce qu'il y aura besoin d'une coalition? On ne voit pas comment ça pourrait se faire. Est-ce qu'il y aura besoin d'une coalition? Non, on ne sait pas encore.
Allons sur l'Écosse, par exemple. Voilà, j'ai retrouvé les chiffres d'un sondage qui est sorti il y a seulement une semaine. En l'occurrence, donc, le SNP, qui est le parti nationaliste écossais, est attendu à 27%, soit 13 points de moins que lors de la dernière élection. Les Verts, eux, font plus que doubler leur score. Effondrement donc des conservateurs, donc votre parti quelque part, hein, qui passe de 24 à 10%. Mais je rappelle que vous êtes dans le camp des perdants, oui. Jérémy Stéphane. Et le Labour qui effectivement est en baisse aussi. Réforme UK qui passerait donc de 0 à 17%. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui est surprenant de voir que Réforme fait plus que prendre les voix des conservateurs, va même au-delà quelque part, justement semble réussir. Enfin, qu'est-ce que ça pourrait signifier? Parce que, évidemment, Réforme, comme tous les partis de droite historiquement au Royaume-Uni, sont des partis anti-indépendantistes et assez rattachistes à la couronne.
Oui, oui. En fait... La politique de réforme, que ce soit au Pays de Galles ou en Écosse, ce n'est pas d'aller vers une indépendance, mais plutôt le contraire. Bien Donc, réforme soutient la couronne et l'unité. En même temps, réforme suit la voie ouverte par les conservateurs sous Boris Johnson, c'est-à-dire on va prendre une partie du vote, comme on dit en américain, des cols bleus. C'est-à-dire les classes ouvrières majoritairement blanches. Donc, c'est pour ça que Reform est un parti très, très attractif aux yeux des classes ouvrières d'Écosse et du Pays de Galles. En même temps, il y a tous ces gens à gauche, même très à gauche, on peut même parler d'islamo-gauchistes, qui trouvent leur bonheur dans le parti écologiste, les Greens.
Oui.
Donc, ces deux extrêmes montent. Je dirais que Reform UK, ce n'est pas un parti extrême. Les Greens, si.
Oui.
Il y a des candidats qui ont posté des postes ouvertement antisémites, ouvertement pro-Gaza, pro-Hamas. Donc là, on est avec des extrémistes. Reform UK se qualifie aujourd'hui de parti de centre-droite.
Oui.
Il y a eu une dédiabolisation, comme on dirait en français, qui a bien marché.
Oui, parce qu'en réalité, ils ont un avantage aussi. C'est presque un avantage qui a eu, on va dire, qu'on pourrait comparer à celui de la France. C'est aussi que, eh bien, ils ont eu une personne qui est partie de ce parti pour fonder son propre parti encore plus à droite, Restore Britain. Alors, qu'est-ce que c'est Restore Britain? C'est donc Rupert Lowe, un parlementaire donc anciennement de Réforme, qui trouve effectivement que, en fait, si je faisais l'analogie, ce serait un peu comme si Zemmour avait quitté le RN pour expliquer que le RN s'est renié partout et mener quelque part avoir une politique identitaire. C'est un peu ça.
Oui, tout à fait. Je trouve l'analogie assez exacte. Et Nigel Farage a l'avantage maintenant d'avoir quelqu'un de plus extrême à sa droite.
Oui.
Et Rupert Lowe, Restore Britain, on voit que le nom même est calqué sur Reform UK, Restore Britain. C'est un peu le même marketing.
Bien sûr.
Sauf que Rupert Lowe se prétend encore plus puriste en quelque sorte. Lui, il serait prêt à expulser chaque personne qui soit un vrai immigré clandestin, n'ayant pas de papier, est entré illégalement sur le territoire. On revient à la peine de mort, ce qui me semble pas du tout une mauvaise chose, mais bon, c'est considéré comme une politique extrême. Il incarne en quelque sorte une sorte de position extrême qui existe et qui attire quelques électeurs, mais qui ne sera jamais en mesure, à mon avis, de rivaliser avec Reform UK.
Mais alors justement, est-ce que Restore Britain, on a des sondages dans lesquels on voit un petit peu comment il se positionne, est-ce qu'il pourrait atteindre, selon vous, quelques sièges? On sait que Rupert Lowe siège actuellement, donc je ne sais plus exactement, je crois qu'il est dans l'ouest de l'Angleterre,
Exactement, Great Yarmouth.
Exactement, Yarmouth. D'une certaine façon, la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que, à défaut évidemment de pouvoir arriver à une majorité, ce qui semble quand même un peu ubuesque, est-ce qu'il pourrait créer une vraie force d'appoint? Est-ce que finalement, alors que Reform UK est un parti très récent, est-ce que Restore Britain, lui, peut arriver tout de même encore à la droite à prendre un certain nombre de pourcents, à prendre un certain nombre de circonscriptions, etc.
Il arrivera à exister, c'est sûr. En ce moment, il a un député au Parlement, Rupert Lowe, et je pense une vingtaine de conseillers municipaux qui ont quitté d'autres partis, donc ils n'ont pas encore été élus. Il y aura sûrement des conseillers municipaux qui sont élus. Donc ça représente une force, c'est très minoritaire, mais ça peut quand même gratter quelques points à Nigel Farage. Donc, même si la position de Rupert Lowe est cohérente, on voit mal l'utilité pour le moment. Mais bon, la politique entre Farage et Lowe, c'est aussi une question de personnalité.
Oui, bien sûr.
Donc, en revanche, ce que je peux ajouter, c'est que Rupert Lowe est beaucoup plus proche de Toby Robinson, qui organise une autre grande manifestation au mois de mai.
Où Maëlys Clausel, notre journaliste, sera présente, je crois que c'est le 16 mai, c'est bien ça Maëlys, oui tout à fait. Et donc vous y serez, on attendra vos images du terrain. Mais effectivement c'est vrai que, bon, Tommy Robinson on le connaît pour... évidemment nous c'est quelqu'un qu'en France on regarde plutôt avec affection en tant que personne de droite, mais on sait qu'au Royaume-Uni il est considéré comme étant quand même particulièrement extrême et qu'il n'est pas du tout placé sur le même plan que nous on peut en avoir par des yeux extérieurs quelque part. D'un autre côté, est-ce que c'est envisageable de voir à l'avenir une sorte d'alliance entre Tommy Robinson, qui critique beaucoup Nigel Farage par ailleurs, et Rupert Lowe, et peut-être à ce moment-là créer une sorte de mouvement, peut-être comme il y en a eu avec Éric Zemmour en 2022. Est-ce que c'est comparable ?
En fait, Tommy Robinson, c'est vraiment un cas unique. Et j'ai du mal à identifier quelqu'un de pareil, que ce soit en France ou ailleurs. C'est un homme qui existe pour exercer une pression. Ce n'est pas un homme politique, il ne sera jamais accepté, en quelque sorte, suffisamment. Mais sa position, quand même, lui permet de jouer le franc-tireur. Et peut-être dans une certaine mesure, une mesure très réduite, mais une certaine mesure de faiseur de roi. Le mouvement Tommy Robinson est, comme je le disais, beaucoup plus proche de Restore Britain. En même temps, ça ne peut que créer du mouvement, en quelque sorte, en faveur de Farage et la droite en général. Tout parti qui se présente comme étant très ferme sur des questions de, d'immigration, Tommy Robinson... un petit peu, il fait leur travail pour eux. Et il fait bien son travail, il faut le dire.
Et oui, c'est vrai qu'il mobilise encore une fois des dizaines de milliers de personnes dans les rues. Ça, c'est certain qu'il a... en tout cas, il touche une certaine partie des gens et il est très visible. Enfin, disons que c'est difficile de passer à côté.
Oui.
Ça, c'est certain. D'un côté, je voudrais revenir un petit peu sur la position de Keir Starmer. C'est-à-dire que, mine de rien, cette affaire Mandelson le fragilise quand même beaucoup. On sait que le Labour, donc le parti le parti de gauche, quelque part... classique, lui est donc en très mauvaise position dans les sondages. Il se tire la bourre un petit peu avec les conservateurs pour voir un petit peu qui va avoir la plus grosse chute sur les prochaines élections. Est-ce que au sein des travaillistes, ils se disent il faut trouver une autre solution, il faut trouver une autre issue, quitte à tout perdre, comme l'ont fait un petit peu les conservateurs il y a quelques temps.
Encore une fois, l'analogie, la comparaison est très pertinente parce que les conservateurs se sont débarrassés non pas d'un leader, mais de deux, Boris Johnson, Liz Truss. Et donc, Labour est dans une telle situation qu'ils doivent, tôt ou tard, remplacer Starmer, qui est très, très, très impopulaire. Sauf que le parti lui-même est un petit peu plus impopulaire que Starmer lui-même. Donc, on le laisse là pour qu'il encaisse toutes les critiques après la défaite électorale la semaine prochaine. Après, les vautours vont arriver pour dépecer le cadavre ou ce qui en reste.
Mais alors, par quoi ça pourrait se traduire ? Parce que, évidemment, les prochaines élections britanniques, je crois que c'est pour 2029, si je ne m'abuse, donc c'est quand même dans longtemps. Est-ce que les travaillistes auraient plus... parviendrait d'une certaine façon à écarter Keir Starmer et donc catalyser quelque part toutes les, on va dire, les énergies négatives qu'il y aurait autour du Labour et reprendre la main. Est-ce qu'ils ont par exemple une sorte de second couteau qui pourrait prendre la main de Keir Starmer, qui serait populaire et qui permettrait justement de combler un petit peu tout ce qui se passe? Mais c'est vrai que est-ce que c'est la politique travailliste qui est mise en place ou est-ce que c'est exclusivement la personnalité de Keir Starmer?
Le problème, c'est que c'est les deux. Et le programme de Labour lui laisse très peu de marge de manœuvre. On est dans une situation critique en termes économiques. Les travaillistes ont promis de ne pas augmenter les impôts, de ne pas augmenter la TVA. Où est-ce qu'ils peuvent trouver de l'argent pour faire face à la situation actuelle? Ils ont déjà augmenté les contributions des employeurs à la sécurité sociale, ce qui a plombé l'emploi, l'embauche. Donc, ils sont mal. Et côté candidat crédible, ils ont très peu, très peu. L'homme le plus crédible est actuellement maire de Manchester, Andy Burnham. C'est un homme qui a une bonne réputation, qui a géré une ville. Est-ce qu'il saurait gérer un pays? On ne sait pas. Et il ne peut pas être leader s'il n'est pas élu au Parlement. Et Starmer a fait tout pour qu'on ne lui donne pas de siège pour se faire élire. Donc, c'est le meilleur candidat dans la pire situation. Sinon, il y a une ancienne députée de Starmer, une femme, Angela Rayner, qui a dû démissionner parce qu'elle a trafiqué un peu ses impôts sur l'achat d'une maison, etc. etc. Donc, encore une fois, ils sont mal. Et le pays aussi, malheureusement.
Il nous reste 5 minutes, Jeremy Stubbs. On voit aussi qu'effectivement, on en a parlé, les conservateurs sont en importante chute. Je regardais aussi les sondages, pour le coup, pour le Pays de Galles, où là, pour le coup, Reform serait même devant le Plaid Cymru. Ouais. Voilà, je sais pas comment on dit exactement. Voilà, à 30%. Ensuite, le Labour à 15%. Les conservateurs à 10%. Effectivement, donc c'est une immense chute pour votre parti. Est-ce que c'est la personnalité de Kemi Badenoch, donc qui le représente aujourd'hui, qui est principalement en cause, ou alors est-ce que c'est toutes les erreurs réalisées eh bien, essentiellement par Rishi Sunak et Liz Truss?
Il y a un peu de tout ça, mais au Pays de Galles, les conservateurs n'ont jamais été forts là-bas. C'est une forteresse travailliste. Et donc, c'est la perte du Pays de Galles qui va être le coup le plus dur pour les travaillistes. Pour les conservateurs, ils sont remontés un peu dans les sondages. Et il faut le dire, grâce au travail de Kemi Badenoch, il faut dire qu'on revient de loin. Là, on revient de loin. Même si Starmer a gagné en 24, avec du côté du vote populaire, il a eu moins de votes que Corbyn en 17 ou Corbyn en 19. Donc, les conservateurs remontent un peu. De sorte qu'un jour, est-ce qu'il sera nécessaire de faire une alliance avec Reform UK? Personne ne veut en parler, et de bonnes raisons en ce moment, mais on en viendra là. J'espère que si c'est ce qui est nécessaire un jour, on saura le faire. Parce qu'on a appris, bien sûr, en France, que l'union des droites, c'est essentiel. Et il ne faut pas rester... Bon, jusqu'au moment où il faut faire une coalition, chacun défend son coin et se dit le meilleur. Mais... Donc, les conservateurs, ça pourrait être pire.
Mais d'un autre côté, encore une fois, vous, ce que vous prôneriez, c'est une forme, effectivement, d'alliance, même si les conservateurs seraient minoritaires, entre donc, les conservateurs et Reform UK. On sait que, par exemple, il y a déjà eu des transferts, je pense à Suella Braverman, qui était votre ancienne ministre de la Défense, et en l'occurrence, qui était particulièrement stricte sur la question de l'immigration, qui, effectivement, est passée à Reform UK.
Tout à fait. Mais, comment dirais-je, elle avait déjà une position réforme au sein des conservateurs. Ce qui a changé, c'est que les conservateurs sont maintenant tous sur cette même position-là.
Oui, c'est ce que j'ai demandé, parce que d'un côté, l'attaque... il y a un parti qui est très, très attaqué. Il y a une stratégie très simple pour Nigel Farage. C'est dire, le seul qui peut battre Keir Starmer, c'est moi, enfin les travaillistes, c'est moi. Et voter... pour les Tories, c'est voter pour un parti inutile et qui a tout raté.
Il y a juste un tout petit problème pour Nigel Farage, c'est qu'il y a plus d'anciens ministres conservateurs dans son parti maintenant que dans le parti conservateur. Donc il y a une sorte de paradoxe. Oui. Tout tout est toujours, le ballon est toujours en jeu là. Donc on verra ce qui se passera. C'est intéressant, mais ce qui est sûr, le mois prochain ou la semaine prochaine, oui, on va voir un changement de paysage radical.
Encore une fois, donc en Écosse, l'élection écossaise à suivre, et puis l'élection donc galloise à suivre également. Donc ça, c'est ce que on va regarder. Et d'autre côté, effectivement, la question qui se pose, c'est est-ce que à côté de ça, les travaillistes pourraient prendre le risque faire reposer sur Keir Starmer la faute de toutes de ses potentielles défaites, en tout cas.
Lui, c'est le sacrifice prévu, en quelque sorte. Et je pense que tout le pays va pousser un soupir de soulagement quand il partira. Et je dis ça, non pas en tant que conservateur, mais en tant que Britannique, tout simplement.
Merci beaucoup, Jérémy Stubbs, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la rédaction du magazine Causeur. Écoutez, Jérémy, on vous retrouvera sans doute bientôt, peut-être après justement les élections en Écosse et puis au Pays de Galles pour analyser un petit peu les résultats. Mais dans tous les cas, ne vous en faites pas, vous êtes notre expert anglais préféré. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
À bientôt.